et bienvenue sur Gameblog.fr, votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 95 et nous allons nous rebrancher avec la tradition. La semaine dernière, nous devions normalement faire le best-of du mois de mars et au lieu de ça, nous avons fait un podcast dédié à la Game Developer Conference. Ça nous paraissait le plus à propos. Aujourd'hui, il arrive ce podcast récapitulatif. Comme vous le savez, bien évidemment, tous les samedis, vous pouvez voter dans le best-of de la semaine pour élire votre news préférée, celle qui pour vous a marqué le plus la semaine gamer. Alors pour en parler, bien sûr, nous avons autour de la table à repasser la plus célèbre d'internet, Raan, Kaf, Julo et Traz qui nous fait l'honneur, le plaisir et l'avantage d'être parmi nous. Voilà, alors on va commencer sans plus tarder avec les informations que vous avez sélectionnées. Ensuite, nous parlerons et nous évoquerons l'homme du mois avant de faire un petit bilan de l'actualité générale de Gameblog. Et puis ensuite, les coups de cœur, les coups de gueule et enfin les news qui ont vraiment fait le buzz au mois de mars. C'est parti pour une heure de podcast. Messieurs, êtes-vous prêts ?
Ouais.
Voilà, genre. Ça fait plaisir.
Alors, on faisait rien là donc.
Alors les infos que vous avez sélectionnées grâce au best of hebdomadaire, tout d'abord Capcom qui misait sur la Xbox 360 avec les propos de Keiji Inafune qui disait, je cite, j'étais persuadé qu'exploiter la Xbox 360 était la seule manière de percer sur les marchés étrangers et j'ai suivi cette hypothèse. Au final, je suis très heureux d'avoir agi de la sorte. En gros, il est super content d'avoir réussi son pari, mais est-ce que c'était finalement une bonne manière ? Est-ce que c'était pas un peu Nostradamusquesque, Raan, comme hypothèse ?
Bah, je trouve pas que c'était Nostradamusquesque, c'est ça ?
Oui, pardon. Un truc un peu du style.
Nostradamusquesque, ouais, donc...
pas mal, le petit litré tout de suite.
Parce que c'était sûr qu'elle allait faire un carton aux États-Unis, qui est un gros marché, je pense, on peut le dire.
Le premier aujourd'hui.
Voilà, et qu'elle sortait en avance de la PlayStation 3. Alors évidemment... c'était pas garanti que Sony allait rencontrer les difficultés qu'il a rencontrées depuis, mais c'était pas forcément un pari absurde ou Nostradamusquesque avant l'heure. Enfin, à mon avis, quoi. Voilà.
D'accord. Donc, en tout cas, le fait que Capcom clairement a misé d'entrée sur la Xbox 360 avec des titres comme Lost Planet, avec des titres comme Dead Rising, ouais. En tout cas, ça a porté ses fruits.
Après, on sait pas comment ça s'est passé non plus. Peut-être qu'effectivement, économiquement, c'était un intérêt supplémentaire et pas seulement vraiment un pari.
C'est possible
un petit peu
aussi.
Poussé,
Julo, tu vois.
Ça avait quand même quelque chose d'un peu surprenant à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez de décider de faire une exclue sur 360 au moment où tout le monde se tourne vers le multiplateforme, etc. C'était
surtout de la part de Capcom qui est quand même sur... pas traditionnellement
voilà,
très...
Et donc c'était quand même assez surprenant à l'époque. Et effectivement, c'est un pari qui est gagné, on le sait aujourd'hui. D'ailleurs, Square Enix, ils font la même chose. Hein. Et dans la foulée, l'année dernière, il y a eu Last Remnant. C'était exactement ça l'idée aussi. Bon, là, c'est multi.
Et Unlimited on Discovery.
Voilà.
Enfin, à la fois, c'est deux jeux mauvais. Là.
Ouais, après, pour. Ouais. Il y a eu pas
d'ailleurs,
mal
c'est
de RPG.
Quel jeu
aussi.
Mauvais à ton avis
Des deux
Last Remnant.
Ouais, non, franchement. Mais Last Remnant, peut-être.
Last Remnant, d'accord.
Parce que techniquement, il est encore plus à la ramasse que Infinity on Discovery. Kaf, tu voulais préciser une chose sur cette info.
Non, mais c'est juste qu'on ne saura jamais si en background, il n'y a pas eu d'histoire de chèque avec Microsoft qui s'est montré très persuasif pour le lancement de la 360.
C'est évident que Microsoft a été très content et a accueilli cette nouvelle, les bras et le portefeuille ouvert.
Enfin voilà, c'est tout.
Mais en même temps, techniquement, ils avaient peut-être réalisé un petit peu en avance sur d'autres développeurs japonais qu'il fallait se mettre à jour au niveau des outils et ils ont développé un moteur. Donc, j'arrive jamais à retenir le nom de leur putain de moteur.
Le moteur qui rame sur PC, moi je l'appelle. Parce que
tous
les portages
sur
PC sont catastrophiques.
De Resident 5 et de Lost Planet justement.
Le framework 2.0, enfin
framework, c'est un framework. Ouais, donc,
mais c'est, ouais, y a, c'est un nom comme ça. Bref, on l'a oublié. Excusez-nous, hein, mais ça
arrive.
C'est
l'âge.
Ouais, c'est l'âge et l'heure.
En tout cas, c'est clairement Capcom, c'est l'éditeur japonais qui est le plus à la pointe technologiquement.
Bah, ouais, au niveau de ce qu'ils arrivent à faire sur une Xbox comme sur une PS3 d'ailleurs, ils sont quand même vachement en avance par rapport aux autres développeurs japonais. C'est peut-être ça qui leur a... C'est peut-être aussi une décision technique par rapport à eux, parce que Microsoft offrait des outils, parce que tout un tas de raisons. Donc,
En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'ils recommuniquent aujourd'hui encore dessus, c'est qu'ils sont très contents de ce qu'ils ont fait avec la Xbox 360. Et effectivement, le marché leur a donné raison. C'est une première chose. En tout cas, c'était une information que vous avez soulignée. Alors, autre information de choix en ce mois de mars. Franchement, on ne pouvait pas passer à côté. On a déjà quasiment dédié un podcast à la chose. Hein. C'est l'apparition du OnLive qui pourrait peut-être faire un
un grand adieu au PC et à la console avec ces jeux dématérialisés qui arriveraient. On en a déjà beaucoup parlé dans le podcast de la semaine dernière dédié à la GDC. Néanmoins, revenons quelque peu dessus parce qu'il y a eu quelques annonces depuis avec le patron par exemple de Crytek qui a eu des phrases assez définitives,
qui a,
on va dire.
Qui a remis les choses parce qu'en fait, les présentations dans le live étaient vachement basées sur Crysis, sur le partenariat avec Electronic Arts, avec Crysis, etc. Donc tout le monde a dit, oh là là, bah, Crytek, il kiffe et tout. Et donc le mec de Crytek a fait non, Electronic Arts veut proposer ce produit, donc qui est notre jeu pour le service, mais nous, on y croit moyennement. La techno, à mon avis, elle n'est pas prête. Et donc le patron a fait des déclarations en disant, avant 2013, il ne croit pas trop, et en 2015, on commencera à discuter. Et donc du coup, il a calmé un peu tout le monde.
C'est pas le seul en fait à avoir
cassé l'ambiance.
Nous on les a émis d'ailleurs pour le podcast GDC. Tout le monde est plus ou moins dubitatif et les patrons de OnLive s'en félicitent d'ailleurs.
Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Oui, ils disent c'est normal, enfin c'est même bien que les gens doutent. Alors comment on peut.
Je pense que c'est simplement parce que eux ça leur permet de valider le fait que leur techno est véritablement en avance et que c'est véritablement les seuls à pouvoir le faire parce que l'idée est ancienne t'as d'autres crétins, comme David Perry, voulais-je dire donc.
Ouais, mais on se le garde pendant quelques instants.
Mais non, je pense aussi qu'en plus, si jamais il y a le moindre souci pendant la période de bêta, etc., les expectations sont trop hautes.
Les attentes.
Je te la fais, Jean-Claude Van Damme. Si les mecs sont super au taquet, forcément, la chute ne peut être que violente, alors que là, les gens n'y croient pas. Donc si ça fonctionne, ça sera limite une bonne surprise. Bon, ouais. Moi, j'attends de voir. Hein.
Alors, c'est clair aussi, ça remet les choses en perspective.
Exactement.
Si personne n'en attend rien, ils peuvent pas se planter quoi.
Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont pas les seuls visiblement néanmoins à s'intéresser vraiment à ce genre de choses, puisque quelques jours après, même ça a été fait 24 heures après, il y a Sony qui a annoncé avoir déposé un brevet.
Ah, ils l'ont pas annoncé, mais le
oui,
le brevet
ils l'ont annoncé quelques jours après, mais le brevet
évidemment,
a été déposé 24 heures
après.
Les brevets
sont publics, hein, donc y a évidemment des gens qui l'ont vu. Sony a déposé un brevet pour quelque chose qui s'appelle le PS Cloud.
Ouais.
Qui est grosso modo la mise en place d'un système similaire à ce que va utiliser OnLive. Bon, il est dans les détails. Ils n'ont pas dévoilé la partie front, qu'on appelle, de l'éventuel service. La partie front, c'est ce qui se retrouve chez l'utilisateur. Donc, c'est tout ce qu'a présenté OnLive.
La partie visuelle, quoi.
Voilà, avec les menus, avec les services qui seront disponibles à l'utilisateur, etc. Mais derrière, la technologie d'avoir des grosses fermes de serveurs et d'héberger des trucs... Enfin, de gérer les données,
cloud.
Voilà, de gérer les données non pas chez l'utilisateur mais sur le serveur. Ils ont déposé un brevet pour le faire. Voilà. Mm-hmm. Donc, mais de toute façon, CAF en parlera mieux que moi, mais il y a de nombreuses personnes qui disent soit dans le domaine du PC ou du hardware ou tout ça que c'est la façon de le faire et que c'est la technologie d'avenir pour fournir ce genre de service.
Maintenant, reste à se mettre d'accord sur la date un peu.
Sur les tuyaux, enfin, il y a énormément de gens qui sont à fond pour parce que c'est du business énorme pour eux. Tu vois, des gens comme Cisco, donc qui sont pas du tout des noms qu'on cite quand on parle de jeux vidéo normalement.
Alors que c'est des gros ponts du réseau.
C'est juste les maîtres de toute la canalisation pour faire arriver les données chez nous. Et les gens qui font des bases de données, tu vois, je pense à des petites PME genre Oracle. Qui eux vont être ravis aussi, mais derrière, évidemment, ça fait pas ça, les gens comme Nvidia et compagnie, ça leur fait moins plaisir, évidemment.
Même si Nvidia, je crois, s'il a un deal avec OnLive pour fournir certaines.
Ah, mais ils vendraient leur merde pour avoir des deals dans leur truc. Nvidia, c'est les pires, je te jure. Ils sont partout.
Oh.
Allez, autre information qui vous a marqué et pour laquelle vous avez voté en ce mois de mars 2009, c'était la sortie de GTA China Wars. Chinatown Wars, qui est arrivé sur DS et qui a vraiment été un grand titre, on peut le dire, même si les ventes, malheureusement, ont du mal à décoller. Hein.
Alors ça sera plutôt intéressant de les étudier peut-être dans la longueur, effectivement.
En y ajoutant les puces R4.
Les quoi?
Les puces R4. Parce qu'apparemment, il est victime d'un piratage effréné.
C'est pas étonnant, vu que c'est quand même un jeu qui s'adresse plus aux hardcore gamers qui sont un peu éduqués de l'existence de ces trucs-là. Ceci étant, il y a aussi beaucoup de mères qui payent des R4 à leurs gamins.
Mais c'est effroyable. On a vu des études qui montraient que c'était quasiment devenu un piratage de masse en famille.
Parce que tout le monde surfile le plan entre maman, etc. Ouais, pour pas avoir à payer les jeux.
Il y a des comités d'entreprise qui offrent des puces R4.
Sérieux?
Non, mais ça s'en déconne.
Ah non.
Si, si.
Ah, c'est pas mal.
C'est quand même assez
t'as des noms de boîtes à citer?
Malheureusement, non. Mais
merde,
non, mais non.
Mais c'est effroyable.
Ah, c'est énorme.
Ça aurait été bien, on aurait pu leur envoyer les flics.
Allô, Nintendo. Oui, on a des potes pour vous.
C'est un peu l'idée. Alors, ce GTA, qu'est-ce qu'il a apporté? Est-ce que donc grand titre, on peut le voir dans le test?
Déjà, il est surprenant. Techniquement, pour la DS, moi, j'étais quand même assez surpris. C'est pas, Non, c'est pas gigantissime parce que ça reste du cel shading, etc. Mais c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à caser sur cette petite console, quoi. C'est un vrai GTA, quoi.
Voilà, c'est surtout qu'ils ont réussi à caser tout l'esprit du jeu, quoi. Et que tu
ouais,
retrouves vraiment
un
les
peu plus vers ce qui se faisait avant à l'époque Vice City, parce que c'est beaucoup moins sérieux et beaucoup moins mature que
le 4.
Que le 4, quand même. Mm.
Et puis ils ont ajouté des tonnes de mécaniques dues à l'écran tactile et tout, qui font que bah voilà, quoi. C'est un vrai nouveau jeu et un vrai GTA complet, quoi.
Et qui exploite effectivement très bien le fait que c'est une DS et qu'il y a un écran tactile et qu'il y a un micro, tu peux même siffler les taxis, etc. Il y a plein de petites idées et beaucoup de mini-jeux géniaux, quoi.
Traz.
Ouais, je voulais faire une petite intervention par rapport à GTA, justement, sur DS. Est-ce que vous avez vu ou joué à Payback sur iPhone ?
Non.
Non, bah c'est un GTA-like aussi et je voulais savoir justement quelle était la différence entre les deux, si vraiment il y avait... une grosse différence technologique ou pas.
J'ai juste attends, je vais le télécharger tout de suite.
j'ai juste vu des screenshots, moi.
Parce qu'il est pas mal fait, mais moi je le trouve assez injouable quand même.
Ce qui est embêtant.
Sur iPhone, c'est un peu embêtant. Bah, parce
c'est le problème de plein de jeux sur iPhone.
Où on a le doigt en plein milieu de l'écran.
Puis, voilà, sur un iPhone, tu peux pas utiliser un stylet, donc t'as pas la précision.
Tout à fait, c'est pas du tout précis. Enfin, moi je trouve ça un peu brouillon, mais sinon graphiquement, il est plutôt pas mal foutu et. Il y a de bonnes choses, quoi. Mais bon, je pense pas qu'il soit aussi profond que le GTA DS.
Non, mais GTA, t'as toutes les petites missions, d'habitude, les taxis.
Ouais,
les,
tout à fait.
Bonne durée de vie
ça dépend toujours de ce que tu fais.
On veut si dire sur la trame principale.
La trame principale est pas très très longue. Non. Ouais. C'est un des plus courts de tous les GTA. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à faire à côté. Et ce qui est génial aussi, c'est le mini-jeu. Alors, ce que je vais dire est très mal, mais c'est dealer de la cam. C'est trop bien.
Effectivement, oui. C'est
tellement.
Ça reste du jeu vidéo, on va dire.
Oui, la Camaro.
Et tu vois, c'est tout con. Hein. C'est vraiment. Ils ont pas été très loin, mais il y a des quartiers où tu vas acheter tel type de drogue et d'autres quartiers où tu vas les revendre en fonction de la demande et tout ça. Ça reconstitue à lui seul un mini-jeu qui est étonnamment addictif. et vraiment, moi j'ai passé du temps à faire du pognon à dealer de la cam parce que voilà, il n'y a pas 36 manières de faire des thunes dans la vie, quoi. Donc, mais vraiment, c'est un très 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 bon jeu et très étonnant sur DS. Et c'est surtout un jeu qui fait un peu plaisir à voir dans la mesure où il n'y a quand même pas beaucoup de titres de ce type sur cette console et chez Nintendo, quoi. Okay. Et je pense que c'est une bonne fenêtre aussi sur ce qui va se passer sur la Wii parce que je suis sûr qu'il y aura un GTA sur Wii aussi.
C'est fort probable en tout cas que Nintendo et l'équipe de Rockstar se rapprochent les uns les autres et ce premier pont qui est dressé avec ce premier GTA sur DS augure du meilleur pour une version Wii.
Bah ouais, s'ils exploitent aussi bien la Wii qu'ils ont exploité la DS, ça risque d'être plutôt sympa. Ouais.
En même temps, si les ventes décollent pas, ça va pas aider le schmilblick. Hein.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu moins de piratage sur Wii que sur DS
parce ça n'a rien à voir.
Ouais, la DS est vraiment massacrée par la puce R4. Hein, vraiment, quand on regarde les chiffres, c'est effroyable.
Mais c'est surtout qu'il y a une.
C'est un fléau.
Il y a toute une scène en plus derrière. Il y a même des firmwares spécifiques pour la R4, parce qu'évidemment, la team de base qui faisait les firmwares a été arrêtée, entre guillemets. Donc non, il se passe un truc. C'est une plaie, c'est le choléra pour Nintendo.
Ah oui,
c'est l'Ebola même, tu peux
c'est
dire.
C'est l'Ebola.
Bah non, mais la sortie de la DSi est finalement aussi des tentatives de réponse de Nintendo.
Ça, j'en suis persuadé.
C'est évident. Dernière information.
Il y a un très bon dossier sur la DSi d'ailleurs. Sur
Gameblog.fr, je crois. Hein, c'est ça. Hein.
Oui, tout à fait. Je viens d'y penser là.
Mais il est sorti en avril, donc nous n'en parlons pas ici.
C'est ça.
Dernière information pour laquelle vous avez voté hein, dans les best-of hebdomadaires du samedi sur Gameblog, la sortie de Resident Evil 5. Je crois que ça sert à rien de revenir une énième fois là-dessus. Hein, voilà, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ou qui chercheraient un avis, eh bien, vous avez le test sur gameblog.fr. Pour les autres, voilà, notre avis n'a pas changé. Après, pourtant, moult nouvelles parties online. Vous connaissez notre avis sur la question. Voilà, on continue avec désormais c'est la petite rubrique de l'homme du mois. Alors
Et quel homme ?
Et ouais, quel homme ? Il y a eu pas mal de personnes, de postulants à ce titre honorifique. Hein. On aurait pu choisir Hideo Kojima. Avec son rendre l'impossible possible lors de la GDC, Fumito Ueda qui disait aussi que ses jeux n'étaient pas des œuvres d'art. Mais nous avons préféré mettre un coup de projecteur sur quelqu'un que nous aimons bien ici. Il s'agit de David Perry qui lui aussi a profité de la GDC pour nous annoncer quelque chose d'incroyable. On parlait du système OnLive il y a quelques instants. Eh bien, notre ami David a été prompt à réagir en disant « Oh là là ! Mais j'avais prévu d'annoncer tout ça, moi, à l'E3 ! Alors bon, comme il y a le OnLive, moi, je l'annonce, ça m'a forcé la main, je balance tout, mais à la fois, je balancerai, hein, caf. »
Ah, mais en fait, c'était l'annonce moi aussi, monsieur. Mm. Et c'est juste pourri parce que le gars dit qu'il a un service dans les cartons, donc on rappelle qu'il bosse chez Acclaim et que ça n'a rien à voir, c'est une boîte qu'il a montée à côté et qu'il a un service équivalent à Round Live prêt, super, oh là là, mais j'y avais pensé il y a 1000 ans et tout. Et nous aussi, on va le faire. Donc, Round Live, on rappelle, ça fait 7 ans qu'ils bossent sur le truc, ils ont des ingénieurs, ils viennent de faire une présentation extraordinaire.
Alors que David Perry, ça fait 7 ans qu'il ne bosse plus.
Et voilà, et
c'est ça, c'est exactement ça. Tu viens de résumer toute la situation en une seule phrase.
Bah, franchement.
Le mec, il a ça. Alors, c'est assez dit qu'à lui, c'est Acclaim. Tu vois, et à côté de ça, ils montent des boîtes qui servent à rien.
Ah, mais c'est... il est fantastique. Et donc, lui, après, derrière, il fait sa déclaration. Et comme il se rend bien compte, quelque part, il est pas complètement débile, qu'il est ridicule, il dit oui, mais alors moi, je suis pas prêt. Et oui, il va falloir qu'on embauche plus de gens. Et... mais par contre, nous, il y aura même pas de plugin à télécharger.
Wow. Fin.
Et voilà, c'est
et les
tout
seuls
ce
gens qui étaient
annoncé.
Déjà au courant du truc viennent de l'apprendre au moment où il l'a dit. Sûrement.
Ouais, je pense que c'est ça, quoi.
Comment ça, il y aura pas de
en
plugin.
En fait, il y aura rien à télécharger.
Non, oui, il y aura rien. Ça n'existera pas. Ça sera le vaporware.
David,
ultime.
Si tu nous écoutes.
C'est ça. On rappelle quand même à David Perry, c'est quand même néanmoins un grand nom de l'histoire du jeu vidéo.
Qu'est-ce que ça fait j'ai plus soi.
Avec mais un peu de poussière à l'intérieur quand même. C'est les Aladdin Mega Drive, c'est Edward Jim.
À l'époque de Shiny, c'est donc le fondateur de Shiny Entertainment qui a sorti quelques titres valables, genre MDK qui était pas
MDK
mal.
Qui était bien.
Etc. Mais bon.
Puis après, il s'est mis à la retraite.
Mais c'était dans les années 90. Hein. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Oh bah dont un Matrix, dont vraiment on se rappelle très bien.
Oh oui.
Je crois que c'est un
voilà, bon, qui devait rassembler jeux vidéo et cinéma comme on ne l'avait jamais vu.
On mettra en live à côté du projet de MMO collaboratif qui nous annonçait l'année dernière.
Ah oui.
On n'a jamais rien vu encore pour l'instant.
Ça se trouve, c'est la même
ceci
chose.
Ceci dit,
hein.
L'idée n'était pas conne. Hein.
Ah oui.
Ah, l'idée est super bien. Mais
on la rappelle rapidement.
Ouais,
pour
l'idée,
ceux qui...
c'est bosser pour moi gratuitement et on va faire un MMO qui me rapportera plein d'argent.
Voilà.
Non, il y a un mec qui va être chef de projet. Il y a un gars qui va être chef de projet.
Tout à fait.
Voilà.
C'est ce qui fait gagner entre guillemets. Quoi.
Ok. C'est un MMO programmé par une seule personne.
conçu
par une seule personne, dirigé par une seule personne, donc un seul salarié. Et c'est tous les gens. En fait, c'est ça le communautaire de l'avenir, tu vois. C'est...
Ça fait rêver. Hein. Voilà, l'homme du mois, David Perry. Merci pour toi. Tu nous as fait rêver.
C'est mais
plus.
Il est habillé jusqu'à l'année prochaine.
C'est un peu l'idée.
Enfin, pour moi, l'homme de l'année, c'est Max Mosley, mais c'est autre chose encore.
Voilà. Non, on ne parlera pas de
voilà, on ne parlera pas de ça. Allez, on fait un petit bilan de l'actualité de Gameblog. Avant de s'intéresser aux coups de cœur, coups de gueule de la rédaction et les news qui ont vraiment fait l'actu ce mois-ci, le mois de mars, ça a été un mois record hein, pour Gameblog.fr et ça, on vous en remercie 1000 fois. Pour la première fois, on a franchi la barre des plus de 700 000 visites. C'est un vrai record pour nous. Plus de 3 millions de pages vues, preuve de l'engouement qui est en train de se générer autour de Gameblog. Et ça, bah forcément, on vous le doit à vous et ça nous fait plaisir de vous joindre à cette petite... ce petit moment de joie, de fête, de bonheur et d'allégresse.
Alors, Caféine est en train de faire un geste obscène à côté de
voilà.
Toi.
Mais maintenant, l'objectif, c'est le million. C'est le million, il faut aller le taper.
Le million.
Hein.
Voilà,
le million avant l'été. Comme ça, on vous offrira de belles choses, des petites surprises, à commencer par l'E3, une version E3 by Gameblog. On vous en dit pas plus. Rendez-vous au début du mois de juin 2009. Voilà, toujours au mois de mars et toujours concernant l'actualité Gameblog, vous l'avez vu, c'était le 8 mars dernier, Gameblog qui était présent furtivement, j'ai envie de dire, dans Zone Interdite. Dans un sujet qui
alors
s'appelait...
Alors que s'est-il passé, Julien ?
Un sujet qui s'appelait alcool, cannabis, jeux vidéo et porno, nos enfants en danger, point d'interrogation. Alors, vous avez été...
La réponse est évidemment non.
Voilà. Alors, vous avez été très nombreux à réagir sur cette information, à voir l'émission. Alors, je crois qu'on peut en tirer du positif et du un peu moins positif, clairement. Il faut savoir qu'effectivement, cette petite intervention où je présentais en l'occurrence le contrôle parental et la norme PEGI, à la fois, pour beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo, eh bien, ça a été l'occasion de découvrir que ça existait.
Au moins, ouais.
Et autant nous, à chaque fois, ça nous surprend de se dire bah, c'est normal, mais autant ça ne l'est pas visiblement pour le très grand public. Donc ça, en cela... Ben c'est plutôt positif. De voir aussi le père dans cette émission, le père d'un No Life qui aurait pu avoir toutes les raisons de défoncer le jeu vidéo et qui finalement avait un avis très serein et très calme en disant que le jeu vidéo c'était bien, ça apportait des règles, c'était créatif et imaginatif, mais que néanmoins c'était négatif et néfaste lorsqu'on y engloutissait trop de temps. En cela, je crois qu'ici tous...
C'est une logique implacable, voilà, valable pour n'importe quoi d'autre.
On est tout à fait d'accord avec la chose. Et le psychologue, psychiatre qui était invité en toute fin d'émission en plateau, je trouve à la question mais alors le jeu vidéo c'est néfaste pour les jeunes, c'est une véritable addiction, la réponse une fois de plus fut ma foi fort claire, ce fut un grand non. Et en tout cas voilà,
est-ce que le message reste avec le grand public, ça c'est une autre question,
c'est un peu plus compliqué quand on sait que effectivement j'avais quand même parlé pendant plus de 2 heures face caméra à notre Jérémy la journaliste.
Et ben visiblement tu l'as saoulé hein.
Oui, au point qu'elle m'appelait à peu près tous les 2 jours pour avoir des nouvelles informations, des nouveaux chiffres, etc., que je n'ai absolument pas vu dans l'émission. Bon, j'ai envie de dire que petit à petit l'oiseau fait son nid et qu'il est important voilà, d'apporter ce genre de...
Non, mais il
ne
faut pas baisser les bras, il faut continuer.
Ce n'était pas que négatif, c'était très anxiogène sur, on va dire, 75% de l'émission.
Grave.
Mais bon,
je l'ai vu.
N'oublions pas quand même que juste avant, dans le reportage qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo, mais qui parlait de cannabis, on a vu quand même que l'enfant, donc le fumeur patenté de cannabis, avait renoué du lien parce que sa mère s'était intéressée à ce qui l'intéressait, c'est-à-dire le jeu vidéo, en jouant à FIFA. Et donc finalement, c'était un peu finalement dans ce reportage qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo.
Arrêtez le crack grâce au jeu vidéo.
Non, mais qu'on se rendait compte que le jeu vidéo, c'est ça aussi, c'est réunir un peu les membres de la famille et peut-être aider certaines personnes dans des mauvaises passes.
Enfin, t'imagines voilà. La thérapie, quoi. Ma mère me bat à FIFA, après, ça va être quoi? Oh, okay, quelle horreur.
C'est pas facile, c'est pas facile. Autre petit point qu'on voulait aborder rapidement, le mois de mars a aussi été l'occasion pour Gameblog de lancer un nouveau rendez-vous. Vous l'avez vu, hein, c'est tous les mardis matins, il s'agit des pics... Des pitchs anxiogènes du jeu vidéo réalisé par Candy. Alors, on a eu du Street Fighter 2, du Resident Evil, du Super Mario, Castlevania, Deus Ex ou Metal Gear. Comment on peut résumer ça? C'est aborder le jeu vidéo d'une manière complètement décalée.
Je vais tenter de résumer ça en
disant
que c'est du Candy.
Voilà.
Je dirais moi un seul mot, anxiogène.
Voilà. Très bien, ça a résumé.
C'est une vision éclairée des scénarios de jeux vidéo, de leurs histoires et de toutes les thématiques profondes qu'il peut y avoir derrière.
C'est la vérité qu'on nous avait cachée jusqu'à présent.
C'est
en
ça.
Fait.
Et c'est surtout une plongée dans le cerveau de Candy. Et ça, c'est voilà.
Pour tous ceux qui ont joué à Psychonauts,
anxiogène, c'est ce qu'on vient de dire.
Voilà. Pour tous ceux qui ont joué à Psychonauts, il aurait pu être un des personnages principaux.
Ah, certes, c'est vrai.
En tout cas, c'est avec plaisir qu'on trouve ce nouveau rendez-vous parce que c'est surréaliste. C'est un grand moment, voilà. C'est...
Non, mais il y a de la vérité. Ah bah oui. Vraiment, non. Je peux pas te laisser dire, c'est pas juste surréaliste. Ah non, c'est pas vrai.
Il y a surtout des références. Exact. Et là, je dis que c'est plutôt bien vu.
Complètement. Complètement. Allez, dernier petit point sur le bilan du mois avec IG Mag. On vous en a parlé déjà énormément. On a vu beaucoup de réactions dans les forums, alors certaines qui nous ont vraiment fait plaisir, puisque IG, visiblement, on a touché pas mal, et vous avez été très nombreux à aller vous le procurer, certains visiblement avec bonheur. Et puis alors d'autres qui se sont, on va dire, lâchés, et ouais. Ça nous a un peu déçus, pour vous dire toute la vérité, parce que justement, autant vous avez tout à fait le droit de pas aimer, alors là, il n'y a aucun problème. Par contre, dans la manière dont ça a été abordé, c'est pas vraiment ce que nous, on apprécie sur Gameblog.fr, c'est-à-dire ne pas être content, oui, mais le dire poliment et calmement et pas faire du lynchage comme ça a été...
Constructivement, la critique.
Voilà, constructivement. Mais... Parfois, mais ça a été bon, un peu du lynchage qu'on n'a pas trouvé très justifié dans l'absolu.
Non, mais bon. Ils avaient envie de se défouler, alors je sais pas pourquoi, mais bon. Puis de toute façon, d'autres l'ont rappelé aussi... Dès qu'on lance un canard, évidemment, un numéro 1, ça se fait souvent dans l'urgence. Il y a eu beaucoup de choses qui sont à refaire.
C'est très perfectible.
Voilà, et faut lui laisser le temps d'évoluer. Je pense que Gameblog interviendra peut-être aussi plus que ce qu'on fait pour le moment dans le canard. Et puis, il évoluera et c'est forcément en bien.
Donc, il faut pas oublier quand même que pour un premier jet, on va dire, 244 pages sans aucune publicité pour 8,50€, vu la qualité du contenu général, avec du beau papier, vraiment un...
Bah, c'est pas vraiment un magazine, non, en fait, c'est un MOOC. Quoi,
c'est un MOOC, ça veut dire un mix.
Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un peu cher, mais quand tu regardes ce que t'as comme canard à 140 pages avec 25 ou 30 pages de pub dedans, pour genre 7€,
voilà.
En comparatif.
Avec à peu près la moitié qui est de l'actu qu'on peut retrouver sur le net complètement gratuitement.
140 pages, il y en a même pas beaucoup, c'est plus 110. Hein.
Ouais. Ah ouais,
ouais.
Bah, donc voilà, nous en tout cas on est heureux de contribuer à IG Mag, on trouve que c'est une belle manière de parler aussi de jeux vidéo et c'est surtout un vrai complément on trouve à Gameblog. Bien évidemment oui, les tests sont repris in extenso de Gameblog, mais
pour certains d'entre eux,
pour certains d'entre eux bien sûr, pas tous, mais c'est aussi une manière je trouve très agréable de pouvoir l'avoir en
tout
papier.
Tout le monde n'a pas un MacBook pour se chauffer les cuisses aux toilettes, quoi.
C'est clair. Attends,
on peut lire, on n'a rien inventé de mieux que le papier pour les toilettes.
Très bien, voilà, sur ce maintenant, next. On va s'adresser de nos coups de cœur, coups de gueule du mois. Et là, je vais donner la parole à CAF, puisque je n'y comprends rien, je ne comprends pas la moitié des mots qu'il y a dans cette phrase. Il y a un MMO Marvel qui va être développé par Gazillion. Alors, qui sont tous ces gens?
C'était plutôt le coup de cœur. Non, mais justement, c'était le truc qui m'a fait marrer, c'est que déjà, bon, Marvel, j'adore, hein, donc un MMO Marvel, ça fait plaisir. Mais
pour ceux qui n'ont pas compris, je sais qui c'est Marvel quand même. Hein. Après, les gens se posent des questions.
Mais les gars de chez Gazillion, donc un nom surpourri de boîte, faut quand même être clair, on fait très très fort parce que c'est une boîte qu'en fait qui existe depuis 2005 et personne n'était au courant. C'est-à-dire que les mecs, ils ont commencé à avoir des investisseurs, à lever des millions de dollars. Et là, on parle vraiment de millions de dollars, de dizaines de millions de dollars. Ils ont racheté des sociétés qui avaient déjà fait des MMO. Et personne n'était au courant.
Bon, alors comment ils ont fait ? C'est ça qui m'intéresse.
sur les dizaines de millions de dollars.
Donc, voilà, c'est ça. Bien sûr.
Et ben, écoute, j'en sais rien. Je pense qu'ils ont un Jedi mind trick. Tu vois, file-moi de la thune.
Putain.
Et je sais, franchement, c'est hyper impressionnant. Et j'ai vu une interview hyper drôle donc au mois de mars du patron de la boîte qui disait. Mais nous, même quand on a racheté les premières boîtes, on pensait que quelqu'un allait faire gaffe. On ne voulait pas parce qu'on avait décidé de rester low profile et de faire une annonce quand on aura un vrai deal, etc. Et puis, bah en fait, personne n'a rien vu. Alors là, déjà, tu as tous les journalistes, hein, y compris nous, on est là genre.
Oui, c'est ça.
Oh là là, bah tiens, j'ai des jolies chaussures aujourd'hui. Et, c'est ce que tu vois pas le truc, quoi. On a juste été ridicule sur le coup. Et le mec, il continue en disant, bah voilà, bon, maintenant, on a fait une petite annonce, on a signé un deal de 10 ans avec Marvel.
10 ans ?
Ouais.
Ah oui.
Ah non, ils sont comme ça, eux. Tu vois,
donc des millions de dollars, on t'a dit.
Non, non, ils ont fait très très fort. Et puis en plus, là, dans la foulée, donc, ils ont annoncé que, mais attendez, nous, on sera pas du tout, parce que tout le monde a commencé à faire attention. Mais là, il y a City of Heroes, il y a plein de trucs et tout qui vont arriver.
Ça marche, City of Heroes ?
Bah,
c'est un des rares qui marche.
Ouais. Voilà, ouais. En fait, la boîte est dimensionnée pour pas. Ils ont pas besoin de millions de joueurs. Pas
c'est un peu comme Eve, quoi. C'est rien par rapport à la World of Warcraft, mais ça tourne bien. Par
je
rapport
crois
à
que c'est 200 000 joueurs, un truc comme ça, tu vois. Donc, et en revanche, ils sont en train de se dire, tout le monde est un peu inquiet en se disant, il y a ça, il y a DC Universe qui va arriver, donc le concurrent.
Parce qu'il y a Sony Online qui s'y met. Ouais.
Exactement. Et en fait, eux, ils ont fait, non, mais nous, c'est pas avant 2012. Là, on a le temps. Et effectivement, tu fais le calcul, on a plein d'argent, on va faire un putain de jeu. 2012, City of machin, ils auront 7 ans. L'autre, il aura au moins normalement 3 ans s'ils sont dans les temps. Tout va bien pour eux, tu vois, ils sont tranquilles. Donc,
ils sont basés aux États-Unis ?
Ouais, et ils ont des boîtes donc maintenant partout aux US. Donc parce que c'est un regroupement de sociétés qu'ils ont racheté par petits pods en fait.
Gazillion, ça veut dire quoi d'ailleurs ?
Gazillion. Je sais pas, ça veut dire.
C'est pas un très gros chiffre. Non,
c'est gazillion de dollars.
C'est ça, un gazillion de dollars.
Bon, en tout cas, un nom à retenir dans les années à venir. On a une date pour la sortie de ce MMO ?
En fait, ils sont super malins. Eux, ça va être 2012 pour le vrai produit important, etc. Et en attendant, ils font des produits à licence toujours autour de Marvel et le premier est prévu pour cette année en fait et qui est basé sur un dessin animé pour les gosses en fait.
Ok.
Donc, qui est un produit hyper facile à vendre, à faire et surtout qui va être sur un marché un peu Dofus-like à mon avis.
Ce sera un premier test en tout cas pour regarder un petit peu de quoi ils sont capables. Hein.
Ah carrément, mais c'est une autre de boîte, hein. Ça sera d'autres
débats. Les fondateurs sont pas du tout des ex de genre de.
Je me rappelle plus du pédigré, mais les mecs, ils ont tous des CV longs comme le bras. Hein, donc, okay.
Ah, pour lever les millions, il faut au moins ça.
Oui, tu as des grands bras.
Dans les années à venir, Gazillion et son deal d'exclusivité sur 10 ans avec Marvel, je suis quand même assez impressionné. Sorti de nulle part, réussir à séduire comme ça un groupe
carrément.
Aussi fort que Marvel.
Qui s'était barré, qui avait annulé d'autres projets avant.
Impressive, comme on dirait. On continue, alors là, il va peut-être falloir se boucher un peu les oreilles pour certains. Alors je vais vous expliquer. On va parler de BioShock 2 et quelques annonces qui ont eu lieu en ce mois de mars dernier. Voilà, sachez qu'on va en parler pendant à peu près une petite minute, on va être assez rapide. Donc ça y est,
si vous voulez vous
avancez un petit peu rapidement et puis maintenant,
parce qu'il y a 3, du lourd quand même.
2, 1, la parole à Raon pour ceux qui ont les oreilles ouvertes.
Oui, alors déjà avant toute chose, il semblerait que ça s'appellera bien finalement BioShock 2 tout court.
Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire.
Oui, parce que bon, au départ c'était BioShock 2, puis c'est devenu BioShock 2 Sea of Dreams, puis.
Puis annulé.
Voilà,
nouveau,
puis annulé, enfin bref.
Puis repris, puis repris.
Bref, donc cette petite mise au point faite. Je trouve leur approche super intéressante parce que bon, déjà on savait pas trop si ce serait vraiment une préquelle ou une suite. Il s'avère que c'est vraiment une suite qui va se passer 10 ans après le premier et on serait dans la peau du premier des Big Daddy, donc les personnages en scaphandrier avec les
espèces de foreuses là.
Voilà,
dans
c'est
la main.
Ça. Et qui sont de mèche avec les petites sœurs qui collectent la dent, qui est l'espèce de ressource qui permet de se faire muter, d'acquérir des pouvoirs.
N'oublie pas, nos amis qui ont leurs bouchées reviennent dans une minute.
Oui. et donc, l'approche est vachement intéressante parce que, on ne sait pas exactement pourquoi ce serait le premier qui reviendrait 10 ans après. On sait aussi qu'il y aura une Big Sister. Qu'on voit en fait, qu'on devine, enfin on supposerait que c'est elle dans le premier teaser vidéo qui était diffusé déjà il y a quelques temps. Mm-hmm. Ça sortira donc fin de l'année, donc on en saura certainement plus très bientôt et à l'E3 notamment. Mm-hmm. Mais l'approche est vachement intéressante et on pourra effectivement utiliser les mouvements qui, du Big Daddy, genre le coup d'épaule et tous les trucs qu'on a vu dans le premier.
Mais si on en croit les premiers artworks qu'on a pu voir, c'est pas un Big Daddy exactement comme dans le premier épisode. Ça veut dire moins cuirassé, plus fin.
Ah non, ça c'est la Big Sister en fait, justement, ça, qui est vachement Sister, fine, qui est très fine, très rapide et qui apparemment nous chassera dans cet épisode-là, sera aux trousses de nous. Alors, on ne sait pas pourquoi ni comment est-ce qu'on se retrouvera à nouveau dans Rapture. On sait aussi qu'il y aura des niveaux à l'extérieur de Rapture sous l'eau, ce qui peut être très intéressant aussi. Et donc vraiment, ils ont une approche intéressante, ils vont faire un truc un peu nouveau. Et je pense qu'en termes d'histoire et d'éléments sur l'univers, ça va être vraiment intéressant.
Écoute,
en tous les cas, moi je leur fais confiance.
On a hâte de voir, puisque le premier était un tel chef-d'œuvre, quand même, on peut le dire, d'immersion et de qualité narrative.
Ils vont pas pousser que ça d'ailleurs, ils vont pousser aussi un petit peu le gameplay, c'est-à-dire combiner des pouvoirs ensemble pour faire des pièges évolués, genre enflammer un piège qui fait du vent pour faire un autre piège, voilà, enfin combiner des choses, etc. Donc. Ça peut être vraiment, 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 vraiment intéressant.
Ok, et bien en tout cas, vous pouvez le voir déjà, suivre un petit peu le site qui a été lancé, le site officiel, mais qui pour l'instant ne dévoile pas grand-chose sur le jeu, mais plus sur son ambiance générale, avec une petite fille qui aurait été kidnappée, on aurait vu quelque chose sous la mer, etc. Vous le retrouvez sur gameblog.fr, hein, on vous a donné le lien du site en question. Allez, Julon, on va parler maintenant du jeu, hein, franchement, la grosse annonce, on va dire, gamer de la GDC. On en a déjà parlé la semaine dernière, forcément quand on parle de Mars, c'était la chose à retenir. Zelda DS.
Oui, alors moi c'est mon coup de cœur perso. Ben, déjà j'adore les Zelda. En plus, le premier Zelda sur DS, c'est juste le meilleur jeu de la console.
Phantom Hourglass. Ouais.
Voilà.
Et puis
c'est l'un des tout meilleurs épisodes de Zelda.
Il est comme ça, Julo.
Voilà.
Non, c'est sûr que c'est pas Nintendo.
T'es
sûr que c'est pas Nintendo?
Écoute, j'ai hésité à un moment, mais j'ai pris une décision. Voilà, ce sera Phantom Hourglass.
Voilà.
Non, et donc cette suite, je l'attends à mort. Ça me fait plaisir d'avoir un Zelda aussi vite. Je pense que.
Moi, j'ai une pensée pour Sewiz qui aime les trains.
Oui, voilà, une pensée pour Sewiz, effectivement. Vu ce qu'ils ont réussi à. La façon dont ils ont réussi à exploiter la DS avec Phantom Hourglass. Étant donné que celui-là, ça sera probablement l'un des premiers jeux à tirer vraiment parti des fonctionnalités DSI, DSI, pardon, on peut attendre des tas de bonnes choses. On ne serait pas plus pour le moment, mais c'est le truc qui m'a le plus excité ce mois-ci.
On va voir si ces putains d'APN serviront enfin à quelque chose, parce que pour prendre des photos, c'est quand même pas ça. Hein.
Ah bah c'est pas pour prendre des photos.
Les prendre, c'est facile, mais la qualité est vraiment pas terrible. Un jeu à suivre avec le fameux chouchou, hein, Link qui devient cheminot.
Et pourquoi pas.
On va voir ce que ça va devenir. Et pourquoi pas, tout à fait.
Se mettra-t-il en grève ou pas?
Voilà, j'allais dire.
Et puis effectivement, ce sera vraiment intéressant de voir les spécificités de la version DSi. Allez, autre coup de cœur, cette fois-ci, c'est un coup de cœur qui est la résultance de coups de gueule qui vont arriver juste après. Et d'ailleurs, je pense qu'on va le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que le dernier coup de cœur, qui est en fait la création du comité de vigilance du jeu vidéo par le syndicat national du jeu vidéo, on va en parler dans quelques instants, après avoir parlé rapidement de tous les drames, de tous les amalgames, de toutes les désinformations qui se sont abattues sur le jeu vidéo au mois de mars, parce qu'il y en a eu quand même une ribambelle, une flopée.
Une logorée honteuse.
Ah, mais et c'est quand même, très honnêtement, c'est vraiment choquant de voir à quel point tout ça perdure. Qui veut prendre la parole? Julo, Raon?
Je sais pas, moi je suis. Non. Tu veux gueuler en premier? Vas-y, gueule. Allez.
Non, mais. c'est pas mon genre, vous le savez bien. Non, mais c'est simplement que quand j'entends ces trucs à la radio, j'ai une pensée, ces trucs horribles qui arrivent comme ça, et je peux pas m'empêcher à chaque fois de penser que. Ça va retomber sur la tronche du jeu vidéo, que ça va déplacer si tu veux le problème, et ça me révolte à chaque fois. Notamment, il y a eu cette tuerie là en Allemagne, et j'ai d'abord entendu le matin à la radio qu'il y avait eu cette tuerie, etc. On a absolument rien dit sur les jeux vidéo tout de suite, et je me suis dit ok, ils vont débarquer chez les mecs, ils vont trouver une console et ils vont le dire, tu vois. Ça n'aura peut-être juste rien à voir, ça sera comme ça.
Et
ça
là,
sera
c'est cool, ça sera dans l'intertitre, alors que la
ça sera comme
de
les mecs de Columbine qui jouent à Counter Strike, et voilà.
Mais je crois
on va
que c'est encore
console,
Counter
Strike. Et donc, non, mais ce qui m'énerve, c'est vraiment pas juste par principe pour défendre le jeu vidéo, c'est que c'est quand même des trucs, je veux dire, affreux, et on s'écarte du problème, et on se trouve là, nous, à vouloir défendre le jeu vidéo, c'est un peu malsain aussi de notre part, quelque part, parce que voilà.
Pas sur tous les cas, parce que par exemple, on va citer un petit peu les choses qui se sont passées au mois de mars.
Oui, parce qu'il y a quand même plus proche de nous l'événement qui s'est passé en France avec le.
Oui, bien sûr. Ouais.
À Uckange, en Moselle, avec cet enfant qui a été accusé quand même d'avoir poignardé sa sœur à cause d'une DS. alors que trois jours après on apprend qu'effectivement c'est la un montage de la mère.
Aveux, oui.
Mais alors par contre, autant on a vu des images de petits enfants en train de jouer à GTA et puis on nous disait le jeu vidéo décidément c'est vraiment horrible, trois jours après quand il y a eu le démenti, le jeu vidéo on n'en parlait plus du tout. Oui. C'est-à-dire qu'on aime frapper le jeu vidéo.
Aucun
mais alors,
des
contre,
grands médias ne s'est permis de faire un erratum pour dire pour remettre en perspective et avoir une nouvelle lecture du drame.
Ils y voient absolument
c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Sans parler de la maladie PlayStation dont on avait déjà parlé, hein, cette maladie qui vous je sais pas détruit les paumes de main à cause d'une mutilation.
Un cas dans le monde, ben voilà, c'était une
là on faisait le ridicule.
C'était complètement ridicule, mais une fois de plus, bon, visiblement ça passe, hein, c'est amusant de taper sur le jeu vidéo.
Puis il y a la publicité
anglaise.
Anglaise, voilà, qui avec le petit garçon avec son pad PS3, le regard un petit peu vitreux. Et la phrase donc en anglais, que je dise pas de conneries, c'est risk an early death, do nothing. Donc en gros, ne faites rien et risquez une mort prématurée.
Donc en gros, jouer aux jeux vidéo, c'est-à-dire ne rien faire.
Enfin, laissez vos enfants jouer aux jeux vidéo et ils auront une mort prématurée, en fait. En
ça, c'est une interprétation qu'on peut avoir parce que c'est en fonction de l'image
que j'ai vu,
c'est en fonction de l'image qu'on a sur la publicité. Si tu avais mis un mec en train de manger.
Justement, c'est ça le problème.
C'est pour ça que ça.
Le problème n'est pas d'accuser les jeux vidéo d'être une activité sédentaire dans le cadre d'une, puisque cette publicité a été faite dans le cadre d'une action
sponsorisée
par le gouvernement contre la montée de l'obésité, qui est un vrai problème de santé publique. Surtout en Angleterre d'ailleurs, c'est bel et bien le fait qu'il n'y ait eu que le jeu vidéo
image.
D'accusé. Et curieusement, alors après on en pensera ce qu'on veut et c'est pas forcément la vérité, mais la façon dont ces publicités sont financées, il faut savoir que c'est derrière un conglomérat de plusieurs groupes industriels, parmi lesquels figurent Coca-Cola, McDonald's, Pepsi.
Ah, c'est des très gros de l'agroalimentaire. Donc,
et des médias aussi tels que télévision, etc. Donc BTV, des grands médias anglais, qui donnent de l'argent au gouvernement anglais pour financer une partie de ces campagnes et pouvoir dire derrière, donc nous faisons notre part du contrat. Et comme il n'y a aucune boîte de jeux vidéo dans le tas, on ne peut pas s'empêcher de penser que, vu qu'ils ont une influence éditoriale, et ça a été reconnu par le gouvernement, sur les publicités, ça n'est pas un hasard.
Parce qu'effectivement, il y aurait eu cette campagne avec, on va dire, plusieurs affiches. Quelqu'un en train de regarder un DVD, quelqu'un
la
en train
lecture,
de lire, quelqu'un en train de regarder un film. Bon, voilà.
On n'aurait rien pu dire.
Pourquoi pas ? Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est une stigmatisation absolue, totale, à 100% du jeu vidéo. Ce qui est en plus assez amusant, c'est de voir que là, donc, on critique la passivité du jeu vidéo, mais que pourtant, l'argument numéro un quand on critique le jeu vidéo, c'est que contrairement au cinéma ou quoi que ce soit, c'est oui, mais vous comprenez, vous êtes acteur quand vous jouez. Parce que vous réalisez le mouvement. Donc ça veut dire que c'est le jeu vidéo, on peut l'attaquer sur son côté actif, mais on peut le sur le côté passif aussi. Donc
on peut l'attaquer dans tous les sens. Auto-reverse. Tête à claque.
Et ce qui est donc effrayant quand même, c'est qu'il y a eu des plaintes officielles de la part de Sony Computer Entertainment et de la part d'un millier de gens qui bossent dans l'industrie du jeu vidéo en Angleterre.
Et pas seulement dans le monde entier, il y a des Japonais, il y a des Européens, il y a des Américains. Tout le monde effectivement s'est manifesté en disant il y a un truc qui cloche quand même. Ouais. Faut pas.
Une sorte d'amalgame un peu honteux quand même.
Certains ont effectivement déposé des plaintes et elles ont été rejetées par les instances qui sont en charge donc de la publicité.
La vérification de la publicité en Angleterre.
Voilà, enfin, même... qui sont chargés de savoir si une publicité pose éventuellement un problème
par rapport
à la société.
C'est ça le pire dans tout ça, c'est que la conclusion, c'est que non, il n'y a rien à redire.
Voilà.
Non. C'est pas du tout choquant, on ne vise pas du tout le jeu vidéo.
Et au fait, vos gueules, en fait. Tu vois, c'est ça.
Exactement. Exactement.
C'est un petit peu l'idée. Alors justement, pour conclure sur ce coup de gueule qui est un peu sombre quand même. Enfin, c'est pas joyeux hein, par rapport à ce qu'on
peut
voir sur le jeu.
C'est surtout une accumulation. Mais je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'en
sur
ce
un
moment,
mois, là,
c'est
ça
dingue.
A été effroyable. Là, ça a été l'avalanche. Et ben justement,
c'est la crise, mec.
Devant tant d'acharnement, finalement, eh bien, le syndicat national du jeu vidéo a décidé de vraiment réagir. Et on avait relayé un petit peu la lettre ouverte qu'ils avaient envoyée Madame Bachelot. Et puis ensuite, derrière, on appuie fortement la création donc d'un comité de vigilance du jeu vidéo dans lequel il est fort possible d'ailleurs qu'on participe, qui va donc en fait de manière très simple réagir à chaque fois point par point sur chaque information qui sera distillée dans les médias généralistes, que ce soit en presse papier, à la radio, en télévision, pour à chaque fois apporter un regard qui soit d'un psychologue, d'un joueur, d'un journaliste ou qui que ce soit, mais pas forcément le syndicat national du jeu vidéo qui va être là juste pour défendre sa paroisse, mais donc quelque chose de serein, clair, très pédagogique, mais à la fois très ferme, pour désamorcer toutes ces informations qui sont tout simplement fausses, erronées, et qui sont tout sauf du vrai journalisme. Raon.
Ouais, d'autant qu'en plus, il faudrait quand même le signaler, il existe des initiatives d'État comme Pédagogeux,
bien sûr.
Très bien, qui sont objectives au maximum de ce, qu'on, de ce que peut l'être le regroupement des intérêts du jeu vidéo et du gouvernement. Et curieusement, personne n'en parle dans les médias généraux.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas du tout relayé. Donc, comment tu veux faire passer ce message-là au grand public ? Personne ne connaît Pédagogeux, j'en suis persuadé. Quoi.
Et c'est pas normal non plus. Il faut que, d'ailleurs que les psychologues qui en parlent ou machin, etc., mentionnent ce genre de choses. Nous, on peut en parler, mais nous, on est médias spécialisés, donc évidemment, voilà. Mais c'est dommage, par exemple, pour revenir à l'émission de M6 qui s'intéresse à ça, qu'on ne signale pas non plus les initiatives dans lesquelles l'État est mêlé. C'est pas
Et Dieu sait que pourtant j'en ai parlé pendant l'interview.
Bah ouais, mais bon.
Mais bon.
Des trucs comme ça, par exemple, quand une journaliste essaye de faire une émission un tant soit peu objective.
Alors ça a été relayé sur le site internet d'M6.
Super.
Qui donnait des clés.
J'y suis allé, je pense, la dernière fois en 69.
Ça a vachement changé depuis. Ils ont découvert le flash.
Yay.
Donc voilà, nous on supporte, en tout cas on soutient complètement cette volonté là de création d'un comité de vigilance du jeu vidéo.
Même si le jeu vidéo a déjà gagné.
Mais il ne le sait pas encore, c'est et c'est bien son problème. Voilà, et n'oublions pas, on conclura là-dessus avec un chiffre clair, c'est que tout ça à chaque fois globalement c'est pour montrer du doigt la violence dans le jeu vidéo. Seuls 4% des jeux produits chaque année sont des jeux plus 18. C'est dire à quel point finalement c'est si peu par rapport à toute la variété du jeu vidéo dont finalement on parle très très peu.
Et d'ailleurs, accuser GTA en montrant un enfant qui joue à GTA, c'est accuser les parents et pas le jeu. Et n'hésitez pas de votre côté aussi à éduquer votre entourage et à répéter ces chiffres-là, parce que c'est comme ça que les choses avancent. Yeah. Il ne faut pas qu'on soit les seuls à le faire. C'est la responsabilité de chaque citoyen d'éclairer la société.
Tout à fait, de manière ferme, avec un petit sourire, hein, plus grande des fermetés, s'il vous plaît. Voilà, on continue les coups de gueule avec CAF. Il y a toujours un problème avec Street Fighter 4. Hein. C'est un excellent jeu, mais alors franchement, ils abusent dans deux domaines différents. Le premier, il n'y a toujours pas le patch pour le mode online. Qu'est-ce qui se passe ?
Bah non, mais on attend pour pouvoir jouer avec nos potes de manière à peu près correcte.
Il faut savoir qu'il devait déjà être mis en ligne le jour de la sortie. Hein.
Voilà, donc ce patch c'est tout bêtement un mode salon en fait, où on peut attendre comme autour de sa borne d'arcade préférée son tour pour aller se bastonner avec ses potes, voir le match. Voilà, exactement, tu mets ta pièce de 10 balles sur l'écran et en fait t'attends la fin du match. Tu peux commenter en même temps puisque tu vois le match et donc tu peux continuer de commenter, sachant que tout ça existe dans le Street Fighter 2 HD mes genoux machin bisous.
Street Fighter 2 Turbo HD Remix.
Voilà, la classe. Et que voilà, avec le Street Fighter 4 ne l'a toujours pas.
Et bien justement, pour continuer dans ces coups de gueule et dans Street Fighter, c'est peut-être qu'ils sont occupés, parce que tu le disais à juste titre, Raon, et ça devait sortir au lancement.
Mais non, il faut faire les costumes.
Voilà, les costumes sexy à faire payer. Voilà.
Ça rapporte de l'argent.
99. Ça, par contre, eux, ils sont déjà dispo.
Par pack de 3, 4, 5 personnages,
c'est
tu
ça,
vois.
Surtout histoire qu'on puisse le faire en plusieurs fois.
Ah hein. Oui, non, justement, ils le font super cher et c'est un putain de scandale.
Les micro-tunes.
Et on a les micro-tunes, ah ouais, là, ça devient des maxi-tunes même quand tu veux tous les acheter. Et en attendant, on n'a pas notre patch qui, lui, en plus, va être gratuit. Pas de
bien
chance.
Sûr, bien sûr. Et Julo, je pense.
Tout à l'heure que Capcom avait tout compris.
Ah oui, bah ça définitivement.
Ah, ils ont super compris.
En même temps,
la citation d'Inafune, ça a été mal traduit. C'était on va faire
que des micro-tunes.
Je pense que la
non, mais attends, mais si des gens les achètent aussi, ces costumes, n'est-ce pas?
Ah, bah ça marche.
Et alors, Julo, justement, il y a à peine quoi, même pas 48 heures, il y avait la sortie aussi, même 24 heures en fait, si vous écoutez le mercredi, la sortie d'un nouveau petit paiement aussi pour Resident Evil 5 avec le mode Versus qui arrivait lui aussi, qui arrive tellement vite après la sortie du jeu et qui paraît tellement évident qu'avant c'était à débloquer ou
Capcom s'en défend en disant choquant. Que ça fait pas du tout partie de la structure du jeu à la base machin etc et que c'est un vrai développement un vrai développement à part qui arrive il est sorti quand le jeu
à leur décharge c'est vrai que c'est plus de boulot que de faire un costume quand même
certes
mais bon. Enfin, de toute façon, je ne vois pas qui pourrait avoir envie de jouer en Versus à Resident Evil où tu es obligé de t'arrêter pour tirer. Quoi.
Pour rappel, Jun Takeuchi, donc producteur même du jeu, avait déclaré au mois de janvier ou février « Pas de soucis, on sera vraiment dans les temps pour Resident Evil 5. En fait, on a quasiment fini le développement depuis quelques mois. On fait juste que du tuning, un peu, etc. Ouais. » Et si t'avais tant de temps, mec, tu pouvais l'intégrer, sérieux.
Du tuning avec un H, c'est ça hein.
Ouais, bien joué.
Bravo.
Merci.
Elle est belle. Effectivement, du bon tuning. C'est assez quand même effrayant quand même cette émergence de tous ces micro-paiements qui arrivent. À la limite, quand c'est des vrais jeux, on l'a déjà dit, hein, mais les add-ons de Fable 2, bah, c'est des vrais ajouts qui arrivent plusieurs mois après. L'épisode annexe de GTA, c'est un vrai épisode annexe.
Ah oui, voilà pour le coup.
Ouais. Ah bah ça, c'est le DLC ultime.
Voilà, mais là, c'est tellement
grand-chose. C'est mesquin, c'est juste de la mesquinerie. C'est tiens, et si on allait leur piquer 4 euros, tu vois.
Fable 2 aussi, tu l'as cité déjà,
oui,
Fable 2,
oui.
Pardon.
Donc ouais, donc ça nous à gamebug.fr
on condamne les trucs de Bethesda pour Fallout 3 qui ne marchent pas.
Ah oui, possible. ça c'est
pas mal aussi, tu vois. Mais qui sortent une extension The Beat et ça met juste 2 semaines à ne pas fonctionner. Enfin, il y a
moi j'ai kiffé quand ils ont fait leur journée à moitié prix sur les extensions, sauf le cheval avec armure qui était 2 fois plus cher que d'habitude.
Bethesda, ils sont surpuissants aussi, hein, dans le genre.
Et c'était fait exprès. C'était genre c'est trop rigolo, regarde, tu peux acheter ce cheval avec armure pour $4 au lieu de 2.
Effrayant.
C'est déjà 2, c'est l'escroquerie du siècle.
Allez, en parlant d'une autre d'un autre truc pas bien qu'on condamne nous aussi à Gameblog.
Et là, qu'il est vraiment
non mais vraiment là c'est pas drôle du tout parce que là c'est quand même une affaire d'État, hein, dans l'absolu. Il s'agit de la loi Hadopi, haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. Vous le savez, hein, cette loi de la création et Internet avec cette riposte graduée. La première fois, on vous envoie un mail quand vous avez piraté du contenu sur Internet. La deuxième fois, un courrier. Et puis après, eh bien, on vous bloque Internet de 2 mois à 1 an. Bien évidemment, vous continuez à payer derrière. Hein.
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, ouais, voilà.
Mais sauf que t'inquiète pas, c'est le premier amendement qu'ils vont virer.
C'est le premier truc qui va arriver. Alors, bien évidemment, nous ne sommes absolument pas pour le piratage. Nous condamnons ça vivement. Vous l'avez entendu avec ce qu'on disait tout à l'heure
avec
sur la puce R4. Mais, exactement. Mais néanmoins, il y a un vrai souci avec cette loi. C'est déjà qu'elle est passée un petit peu très rapidement sous le manteau quand
comme
il y avait le moins de députés possible pour la voter.
Avec 16 députés, tout va bien.
Souvenez-vous la date VSI là.
La date VSI.
Voilà. Et qu'ensuite, finalement, pour bien fonctionner, quasiment la loi vous dit bah faut installer un mouchard, hein, pour la faire simple. En gros, l'internet français est en train de se chinoiser.
Je crois que c'est d'ailleurs plus souple en Chine. Enfin, non, je déconne, mais c'est un peu l'idée. Ouais.
C'est effrayant quand même.
Surtout qu'il y a tout un truc dont on parle pas, c'est que cette loi aussi se réserve le droit d'interdire l'accès à un site web. C'est-à-dire que le premier qui a été cité, c'est Pirate Bay. Pirate Bay, voilà, demain, on peut couper Pirate Bay exactement comme on coupe un Chine. Voilà,
c'est le grand principe en Chine. La grande fire muraille de Chine.
Voilà, exactement. Donc ça, déjà, c'est juste totalement inacceptable pour plein de raisons. Maintenant, je comprends qu'il y a un vrai problème. On parlait de la R4 tout à l'heure. Mmh. Il y a un vrai souci de piratage
en France,
facilisé en France.
On sait que la France est à proportion de personnes, d'individus dans un pays, c'est le premier pays du piratage. Hein.
Mais c'est bon, le français est très malin pour. Tu sais, qu'on lui dit, tiens, ça peut être gratuit, il faudrait que tu apprennes un truc. C'est les mecs qui réfléchissent.
Le vrai problème avec cette loi, c'est qu'apparemment, elle est trouée d'ores et déjà parce qu'il y a plein de problèmes techniques inopérables.
Excuse-moi.
Vas-y.
Techniquement, elle est inapplicable déjà pour l'instant.
On explique un peu pourquoi.
Alors parce que déjà, il faudrait donc filtrer. Il faudrait que donc les gens vérifient les adresses IP. C'est-à-dire que en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est écouter les gens qui font du peer-to-peer. Pour ça, il faut qu'il y ait un organisme qui aille se connecter sur les réseaux pirates et aille vérifier ce qui est en train de s'y passer.
En notant les adresses IP des gens.
Mmh. Voilà. Une fois qu'il repère des adresses IP qui correspondent à des IP françaises, boum, truc automatisé, ça envoie un mail genre « Oh, t'as fait ça !» et tout. On ne sait pas à ce moment-là ce qu'on a téléchargé. Hein. C'est à la limite après, il y a un deuxième tri qui va être fait. Personne ne sait vraiment comment ça va se passer.
Oui, parce qu'il y a plein de systèmes peer-to-peer différents. Il faut savoir aussi que ça ne marche pas forcément toujours de la même façon. Certains sont cryptés, donc personne ne pourra savoir ce que tu télécharges. Et le peer-to-peer en lui-même n'est pas illégal. Tu as tout à fait le droit d'utiliser le peer-to-peer. Et d'ailleurs, il y a plein de logiciels qui l'utilisent parce que c'est très pratique pour distribuer la bande passante. Pour télécharger
les contenus. Les pages de World of Warcraft sont en peer-to-peer.
Ouais.
Enfin, tu vois, c'est
par BitTorrent d'ailleurs même.
Voilà.
Autre problème, c'est qu'apparemment aussi, on peut très bien se faire pirater son IP ou des gens peuvent utiliser une fausse IP. On pourrait recevoir des courriers en disant vous avez piraté alors vous avez rien fait.
Il y a un podcast entier à faire sur le vide, le néant qui est cette loi. D'un côté juridique déjà, et ensuite du côté technique. Le côté technique, franchement, je pourrais vous en faire plein. Il va y avoir une tonne de ce qu'on appelle les faux positifs, dans la mesure où Pirate Bay, par exemple, peut tout à fait dire faire des fausses IP connectées sur des trackers de logiciels pirates, de jeux, de ce que vous voulez. Et alors que la personne qui a cette IP réellement, physiquement, dans la vraie vie, n'est absolument pas connectée sur ce truc-là, n'a jamais mis les pieds, etc.
C'est effrayant, quoi.
Ça, c'est génial, déjà. C'est merci la loi, quoi.
Oui, mais justement, d'après ce que j'ai compris...
Excuse-moi
de te couper. D'après ce que j'ai compris,
c'est justement celui qui a l'IP en question qui se fait pirater, qui est tenu de justement de le sécuriser.
Avec ce mouchard. Mmh. C'est la seule façon de prouver que tu as bonne foi, ça sera d'installer un mouchard sur ta bécane.
Ouais, c'est-à-dire que de base, tu es coupable.
Voilà, c'est ça.
Et là où ça devient super rigolo, c'est que ce mouchard peut être installé, genre tu as plusieurs ordinateurs chez toi. Mmh. T'en as un que tu dédies à faire rien. T'as une machine virtuelle qui tourne sur une bécane chez toi avec ce mouchard. Tu peux pipoter de toute façon, quoi qu'il arrive. C'est impossible de vérifier ce truc-là.
Ah oui,
c'est
puis alors attends, impossible. Le mouchard sur Mac.
Non, mais...
ou sur Unix ou sur
machin. Mais voilà, il va falloir qu'il fasse sur toutes les plateformes, tu vois. Donc, et c'est... attention, il va peut-être être payant aussi. C'est-à-dire que la sécurité...
Non, non.
Si, si, parce que la sécurisation qui va avec.
Ah, les mecs, ils sont surpuissants.
Ah, ça commence à devenir drôle en
les
fait.
Le logiciel pourrait être payant. Il n'y a aucun moment, l'État dit ça va être gratuit, on va vous aider à mettre le truc en place. Pas du tout. Non, non, c'est... tu te démerdes. Et s'il faut que tu l'achètes, c'est ton problème.
Et sinon, tu vas en taule, t'as compris ?
Et c'est fantastique. Donc, ça, ça c'est... on parle en plus de. Ils veulent faire partir des milliers de trucs par jour.
Oui. 10 000, je crois, par jour.
10 000 par jour, 1000 courriers.
Entière qui
voilà.
Sera,
donc déjà n'acceptez jamais de recommander de la part de voilà, ça sert à rien. Mais et le l'autre façon, truc qui est génial, c'est que en plus ils donnent des droits juridiques donc pour à une entité privée qui n'a pas de rapport direct avec la justice, c'est ça que je veux dire, excusez-moi. Ce qui n'est pas normalement constitutionnellement, ce n'est pas légal. C'est ça a été en 2004, ça a été déclaré anticonstitutionnel ce truc-là. Donc déjà à la base. C'est,
ouais, techniquement c'est, comme a... juridiquement, c'est n'importe
voilà,
quoi.
Voilà, c'est un truc, mais c'est un merdier pas possible cette loi.
Je crois que Julo a une question.
Ouais, j'ai une question avocat du diable.
Vas-y.
Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on veut arrêter le piratage ?
Justement, mais le problème c'est que déjà on fait pas ça.
Ah ouais, mais justement, mais la question c'est que techniquement déjà est-ce qu'on peut faire quelque chose ?
Mais parce que de toute façon il faut changer. La problématique c'est que c'est une loi pour défendre une industrie qui effectivement est en train de se faire bouffer. Mais il y en a plein d'autres qui se sont fait bouffer. Est-ce que quelqu'un a paniqué ? Est-ce que quand la presse s'est cassée la gueule, quelqu'un a paniqué ? J'ai les états généraux de la presse, il s'est passé quoi ? J'ai pas bien vu. Donc il y a des solutions
rien.
Simplement.
Et d'ailleurs, sur ces histoires de piratage, on va parler de quoi ? De musique et de cinéma ?
Mais c'est les
deux jeux vidéo qui sont piratés. Qui
tout
en parle ?
Tout le monde s'en fout. Donc il y a un vrai. C'est une loi pour défendre un lobby particulier. Donc c'est un putain de scandale déjà à la base.
Ouais.
Et on défend la retraite de Sardou, là, tu vois. Non, mais c'est vraiment ça. Alors que, grosso modo, il y a des nouveaux business models qui vont sortir, il y a des nouveaux logiciels. Je sais pas, essayez Spotify par exemple. C'est simplement que la vente de CD physique est en train de crever. Point barre. Maintenant, il faut passer à la suite.
Voilà, je sens ça. Que Julo a encore une autre question.
Donc, ça passe pas du tout par la loi. En fait, il faut
non,
simplement
ça passe par la transformation
par la
de cette industrie. Qui doit
par exemple,
se
Steam qui marche
mais
très bien. Voilà.
Mais là, on est en plein. Oui. On est en plein. C'est un peu comme si la radio avait fait un procès à la télé en disant faut pas regarder la télé parce que j'exagère, mais parce que la radio perdait ses parts de marché. Tu vois, quand la télé est arrivée,
iTunes fait un blé monstrueux en vendant du MP3 légalement.
Ben voilà.
Il y a plein de services qui vendent du MP3 légalement. Il y a
c'est une fin de race qui se bat. Ouais. Mais vraiment.
Ouais, mais qui en attendant est en train d'amputer la liberté de millions de Français. Hein.
Pour leur propre bénéfice. C'est ça qui est génial.
Et de faire chier surtout ceux qui ne sont pas des pirates. Parce que toutes les protections et les trucs. On se souvient par exemple des CD qui ne fonctionnaient pas dans certaines chaînes parce qu'on avait rajouté je ne sais quelle protection à la con. C'est un putain de scandale.
Voilà, justement, est-ce que c'est pas un moyen. Alors je me fais le supra-avocat du diable, mais.
Ou l'avocat du supra-diable.
Ou même, je suis plutôt super parano. Est-ce que c'est pas un moyen justement de contrôler autre chose que les téléchargements de.
Ah, mais à terme si ce genre.
S'ils avaient la technologie pour
c'est
le faire.
C'est le bon
oui.
prétexte.
S'ils avaient la technologie pour le faire, oui. Mais quand tu vois le nombre de milliards de connexions et de sites internet qui existent, c'est pas possible. D'ailleurs, ils voulaient rejeter ça sur les fournisseurs d'accès et filer la responsabilité de cette surveillance aux fournisseurs d'accès directement. Mais les
qui ont dit oui avec quel chèque ?
Ouais, c'est ça. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre en place les infrastructures, les algos ? Parce que c'est juste immense le volume de données qui transite, ne serait-ce que en peer-to-peer sur la planète, c'est n'importe quoi.
Bah écoutez, en tout cas, le vote définitif aura lieu ce 9 avril, donc on suivra les choses de près, mais c'est vrai que ce qui est en train de se présager n'est pas un très bon signe pour la liberté des internautes français, que ce soit ceux qui, à tort, piratent, ou ceux qui, malheureusement, ne piratent absolument pas, et qui risquent quand même d'en avoir un certain préjudice. On vous tiendra, bien évidemment, au courant. Allez, dernière partie de ce podcast concernant l'actualité du mois de mars, avec les news qu'on fait le buzz le mois dernier, et on va commencer tout simplement par un adieu à l'UMD, point d'interrogation. En tout cas, franchement, ça commence à en prendre un petit peu la tournure, puisque après les rumeurs qui avaient été évoquées sur une PSP2 qui utiliserait du contenu dématérialisé, il y a carrément Ray McGuire, senior vice-président de Sony Computer Entertainment, qui aurait déclaré, concernant l'UMD premier du nom, que ce n'avait pas été un modèle très brillant pour les éditeurs tiers, que ça n'avait pas généré beaucoup d'argent. En gros, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent vraiment, je vous prépare le terrain pour, ouais, l'UMD, bon, c'est un peu planté, mais maintenant on passe à autre chose avec un nouveau truc super, la dématérialisation. Qu'est-ce que vous en pensez, Raon?
Que ça représente tous les avantages pour les éditeurs, pour le constructeur Sony. Parce que,
et d'arrêter pour la l'UMD.
D'arrêter l'UMD, ouais. Ouais. Déjà, l'UMD en soi, donc, c'est un support physique donc avec un lecteur mécanique. Ça, pour une portable, c'est chiant parce que ça bouffe de la batterie. Un support dématérialisé, ça va plus vite et c'est quand même l'avenir. Donc vraiment, ça présente tous les avantages et c'est aussi sécurisable, plus facilement peut-être que ne l'est actuellement la PSP, qui est quand même aussi vachement piratée, ouais. Avec son memory stick. Donc s'ils font un vrai truc numérique, ils peuvent le sécuriser par l'intermédiaire du service.
Comme on le voit avec l'iPhone et l'App Store, hein,
exactement.
Qui finalement complètement. Très peu piraté.
Qui est super piraté, mais dans moins, un volume tellement ouais. Énorme d'achats légaux qu'ils s'en foutent. Quoi.
Effectivement, donc ouais, l'UMD serait-il en train de vivre ses dernières heures? Je crois qu'ici, on commence à de plus en plus en être persuadé. Probablement qu'on entendra parler à l'E3 hein, du 2 au 4 juin. Il est fort possible, selon les rumeurs, que la nouvelle PSP sorte à la fin de l'année. Donc, à mon avis.
La rumeur persistante, c'est qu'il y a le quatrième modèle de PSP avant cette vraie nouvelle PSP. Hein. Ouais.
Ouais, mais qui sera a priori avec un UMD encore, je pense. Hein.
Oui, bien sûr.
Ah oui, sur ce modèle-là.
En termes de design, il faut noter que s'il vire le lecteur mécanique, ça veut dire batterie plus grosse, ça veut dire plein de choses intéressantes à faire en termes pour faire une nouvelle PSP. Ça peut vraiment être intéressant, quoi.
À suivre très clairement dans les semaines, mois à venir. Justement, on reste dans l'univers un peu Sony avec l'annonce de Sony Computer Entertainment. Beaucoup de personnes attendaient une baisse de prix hein, de la PlayStation 3. Eh bien non, c'est la PlayStation 2 qui voit son prix baisser, même chuter à 99€. Ça en fait aujourd'hui la console la moins chère du marché, console de salon. Et alors là, on se pose un peu une question. Finalement, est-ce que c'est pour contrer les ventes de la Wii, puisqu'on est sur du hardware qui n'est pas du hardware HD, on est sur une bibliothèque de jeux qui est très vaste. On sait encore que la PS2, d'ailleurs, cartonne encore, marche finalement pas si mal que ça au Japon, continue à bien se vendre aux États-Unis.
Oui, il y a deux semaines, c'était la seule qui était en progression alors que toutes les autres baissaient.
Et on rappelle quand même qu'en 2008, la console la plus jouée au monde était encore la PS2. Alors finalement, est-ce que ça va faire un peu de l'ombre à la Wii ou est-ce que ça va faire de l'ombre à la PS3, du coup? Caf.
Non, moi je pense que la PS3 elle est tellement différente en termes d'expérience de jeu que la question se pose pas.
Mais en ces périodes de crise.
Bah, je pense que c'est plutôt peut-être la Wii à la limite qui va être touchée, mais on parle vraiment d'un marché d'entrée de gamme.
Il faudrait qu'on ait notre ami Pachter avec nous là.
Mais... Ouais, notre analyse préférée.
C'est ça.
mais moi, non, personnellement, je pense que c'est. En France, je suis pas certain que l'impact soit colossal, mais je peux me tromper.
Bah, en France, la PS3 fonctionne bien par rapport aux autres marchés européens.
Ouais.
Mais moi, je pense pas que le prix de la PS2 va vraiment freiner la Wii. Parce que c'est vraiment une console qui se vend sur la Wiimote, quoi, et sur les expériences. Ouais. Et la manette de la PS2, ça reste la manette de la PS2. Quoi. Donc, déjà, je pense pas que ça le freinera. Et en plus, à mon avis, il y a peut-être quelques joueurs qui vont pouvoir en racheter une parce qu'ils n'ont plus la rétrocompatibilité sur la PS3. Mais il y en a aussi d'autres qui vont passer par la PS2 et attendre tranquillement, qui ne vont pas faire la transition vers la PS3 en attendant qu'elle baisse de prix.
Mm-hmm. Traz.
Moi, je pense que 99€, c'est quand même un prix bien psychologique. Donc ça peut toucher pas mal de gens. Et puis Sony, ils sont quand même coutumiers du fait sur justement les bundles avec des jeux très grand public, SingStar et compagnie. Donc ils peuvent en faire un paquet comme ça et les vendre, j'allais dire au supermarché, mais c'est vraiment ça, quoi.
Ah bah oui, la
vente à 99€. Je veux dire, avec ménagère de moins de 50 ans, si je puis dire, voilà, elle peut être touchée par ça, quoi.
D'autant qu'ils continuent à annoncer des jeux sur PS2, hein, parce que le prochain Jack, il vient d'être annoncé, il sortira sur PSP et sur PS2, donc voilà. Et sinon, je pense qu'il faut rester centré sur Sony, pas forcément essayer de voir si ça va impacter les ventes de Wii ou d'une autre console. Sony, leur objectif, ils le disent clairement, c'est la rentabilité. Ils voient bien qu'ils ont une console qui continue à se vendre, et beaucoup, tout du moins pour une machine de la génération
bien
passée.
Sûr, ouais.
Et je veux dire, là où ils peuvent prendre du pognon, ils en prennent, parce qu'ils en perdent quand même beaucoup ailleurs. Et voilà, quoi, c'est simplement une manière, à mon avis, tout simplement, de relancer les ventes une dernière fois avant que la console soit complètement éteinte.
Raon, tu veux conclure ?
Il ne faut pas oublier aussi que parmi ceux qui sont susceptibles d'acheter une console à 99€, il y en a qui n'ont pas de console du tout, et qui n'auraient pas acheté ni une Wii, ni une PS3, et que ces gens-là, s'ils achètent une PS2, sont en quelque sorte mettre un pas dans l'univers de Sony. Donc sont peut-être des consommateurs qui passeront à la suite quand la PS3 cédera sa place à la 4. Quoi.
Et surtout le catalogue de 2000 jeux. Alors ça, c'est un atout considérable, à mon avis. Quoi.
Et moi, je me demande aussi s'il n'y a pas une sorte d'effet un peu psychologique pour prouver une bonne fois pour toutes que les consoles Sony les soutient jusqu'au bout sur des très longues périodes de vie et en gros, bien pouvoir appuyer leur message sur la PS3 sera là pour longtemps, pour 10 ans. Regardez, on vous le prouve avec la PS2, comme on vous l'avait prouvé avec la PS1, on n'abandonne pas nos machines, nous. Référence
c'est
à d'autres.
Oui, ce que je veux dire.
Voilà. On enchaîne justement avec la console là, qu'on ne citait pas, mais néanmoins on va la dire, la Xbox 360 par exemple, qui marche pas si mal que ça au Japon. Alors c'est paradoxal, hein, c'est la dernière de toutes les ventes au Japon, les dernières des charts. Néanmoins, on va dire que sur cette deuxième génération de machines, Microsoft a réussi un véritable tour de force, Traz.
Tout à fait. Elle a passé le cap du million de consoles vendues là-bas. Donc c'est quand même une prouesse parce que la Xbox première du nom avait même pas atteint les 500 000.
Péniblement, oui.
Très péniblement. Donc je pense qu'il faut quand même le souligner, c'est deux fois plus que la première. Donc,
et puis on est loin d'être en fin de vie. Là.
Voilà, en plus, elle va continuer à se vendre, surtout au gré, à mon avis, des super titres qui vont arriver dessus, notamment des RPG, etc. Donc pourquoi pas, effectivement, la laisser encore 2-3 ans continuer sa vie. Quoi.
Elle sera loin de percer vraiment complètement sur le marché, mais c'est vrai que je suis pas certain qu'on les aurait donné capables de faire en fait ça au Japon il y a encore 3 ans, quoi.
C'est sûr, parce qu'ils font à peu près que 2 fois moins que la PS3 aujourd'hui, en tout cas, ce qui avant c'était 10 fois moins que la PS2, Julo.
Ouais, et puis il n'y a pas que ces chiffres qui sont intéressants, c'est la capacité qu'ils ont eu à sécuriser et à faire sécuriser des jeux et des exclusivités et de faire des vrais coups au Japon. Et ils en ont pas fait, ils en avaient peut-être fait un ou deux avec les Dead or Alive et les choses comme ça sur la première Xbox. Là, sur cette génération, ils les enchaînent à un rythme impressionnant. Et compte tenu de ces progrès entre la première et la deuxième Xbox,
c'est l'image de la console qui change. Ouais.
C'est toute l'image de la console qui change et qui marque vraiment les Japonais. D'ailleurs, il y a eu cette étude dans Famitsu. Bon, alors c'est une étude biaisée parce que
c'est intéressant.
Elle est faite par rapport à des gamers avertis, on leur posait des questions, vous avez quelle console, vous en êtes satisfait, c'était une enquête sur la satisfaction en fait. Et il se trouvait que, en termes de satisfaction pure, la Xbox 360 se plaçait très 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 bien et même en meilleure position que les
devant
autres.
La
consoles,
Wii, devant la
Wii,
devant la PS3.
Ouais. Par rapport à ceux qui l'avaient évidemment.
Hein. Voilà. Et en fait, c'est toute l'image, que je dirais pas qui a changé, mais qui est en train de changer au Japon, autour de Microsoft et de ses consoles.
C'est-à-dire que s'ils poursuivent cet effort, et compte tenu du fait que. Les otaku inversés, c'est-à-dire que les otaku chez nous, c'est les amateurs, on va dire, de choses japonaises, et là-bas, ça va être les amateurs de choses occidentales. Se développent donc et commencent à jouer à des choses comme Halo 3, comme des trucs comme ça.
Donc, dans 50 ans, ils vont y arriver.
C'est ça.
Non, mais je me rappellerai toujours l'une des phrases de Raon à l'époque de la sortie de la première Xbox, quand tu étais revenu d'une rencontre avec Microsoft, et tu disais ils ont une force exceptionnelle, c'est qu'ils apprennent vite.
Oui.
Et c'est vrai, hein, on le voit en une génération déjà, ils ont énormément appris et ils font déjà beaucoup moins d'erreurs et ils font des gros coups.
Ils commencent même, d'ailleurs, on a presque l'impression que ça fait partie de leur stratégie. À chaque fois qu'ils attaquent un marché, on a l'impression qu'ils commencent par se planter obligatoirement, mais vraiment grave. Et la deuxième génération, quand ils y arrivent,
la 360, c'est celle qui marche en fait. Hein. Si on prend les exemples avec les systèmes d'exploitation, il y en a toujours un bien et un pourri. Donc...
Ah oui, c'est vrai que là.
Il faut avoir peur pour le prochain.
Voilà, ce qu'ils ont appris avec Vista par exemple, tu vois, Windows 7, ça va être vachement bien, mais bon, voilà, il y a eu XP, avant il y a eu Windows Millennium, enfin des trucs comme ça, tu vois.
Ils avancent, hein, K1, voilà.
Mais bon, tu prends le hardware par exemple, ils s'étaient plantés au début, ils ont fait une bonne division après.
Qu'ils ont fermé, que personne n'a compris pourquoi.
Ouais.
Bref.
Bon, allez, puisqu'on parle de chiffres et qu'on parle de consoles, difficile de pas revenir sur l'annonce quand même tonitruante de Nintendo. Les 100 millions de DS vendus écoulés dans le monde depuis son lancement en 2004. On en a déjà un petit peu parlé, hein, mais pour avoir des chiffres de référence, pour comprendre à quel point c'est juste un record absolu qu'ils sont en train potentiellement de faire tomber. La PlayStation 2, qui à ce jour est la console la plus vendue au monde, a mis 7 ans pour se vendre, pour atteindre le chiffre des 120 millions d'exemplaires, ce qui était déjà énorme. Donc là, on voit qu'en même pas 5 ans, c'est déjà 100 millions d'exemplaires pour la DS, et que avant, la Game Boy, la toute première Game Boy, avait mis 16 ans pour atteindre les 119 millions d'exemplaires. En gros, on sent aussi quand même que les machines se vendent de plus en plus vite et de plus en plus fort, puisque derrière, hein, y a la Wii déjà qui est en train de poindre, avec 50 millions d'exemplaires déjà présentes dans les charts.
Mais la Wii, Julo, je pense pas qu'elle puisse arriver à avoir la même dynamique que la DS. Très honnêtement, parce que...
Parce qu'elle n'a pas la R4.
Et alors, c'est peut-être... Non, c'est peut-être. Non, alors il y a peut-être une histoire de arcade et de piratage, etc. Mais c'est surtout, enfin, moi, dans ma vision des choses, la DS. C'est une console qui regroupe tout le monde. Non, la DS. Qui regroupe tout le monde. Gamer, casual, familial. Il y a de tout sur DS. Et quand t'es un vrai gamer, tu t'amuses avec une DS. Et pour de vrai. Et depuis maintenant, 3 ans.
Un bon bout de temps, ouais.
Il y avait eu le même problème que la Wii au départ.
Oui, souvenez-vous,
il a été très, très, très vite réglé. Ouais. Sur Wii, ça, franchement, non seulement il n'est
pas
réglé,
ouais,
mais en plus, on ne voit pas... il y a pas d'annonce,
on le voit pas se régler dans les mois qui viennent,
ouais. Et je pense que ça c'est un facteur excluant pour donc plein de joueurs finalement, parce que pas forcément les core gamers mais des joueurs tout simplement, des gens qui connaissent un peu, qui ont envie de jouer à Zelda machin, un truc, qui voient qu'il y a pas grand chose, voilà.
Le Wii Motion Plus arrive, t'inquiète pas.
Oui, ça va tout changer, c'est sûr.
Exact.
Bon, en tout cas,
détectez-vous le sarcasme dans sa voix.
Le prochain Wii Sports, moi je suis un fan du jeu de golf de Wii Sports, j'y joue encore, mais je sais bien que c'est ironique. Et le prochain Wii Sports, à mon avis, va être très rigolo, mais bon, voilà. On est obligé de se rabattre là-dessus.
Voilà, où est-ce que tu tombes là?
Allez, on enchaîne avec une autre information qui vous a pas mal fait réagir sur Gameblog.fr. Il s'agit du salaire des grands patrons du jeu vidéo qui a été dévoilé par Game Trade Journal. Et donc, on a appris les salaires de 4 grands patrons de jeux vidéo. Alors, il y a dans l'ordre, on va le faire dans l'ordre inversé. Alors, notre ami David Zucker, président de Midway.
Ah, ordre inversé. Ouais.
Voilà, c'est fait 1,5 million de dollars l'année dernière.
Tellement il a vendu de jeux.
Parce que Midway, c'est en pleine forme. J'ai envie de dire 1,5 million de dollars. Bon, c'est petit joueur encore. Hein.
Ça fait si ferme la boîte, c'est pourquoi, quoi.
Voilà. Ensuite, chez THQ, on a Brian Farrell.
Qui est aussi dans une brillante situation financière.
Ouais, que des bons jeux.
Voilà. Ah, ils ont sorti deux blobs qui étaient pas mal.
Ah non, et qui marchent bien même.
Il y a eu bons titres, attention. Mais pas assez.
Alors, Brian Farrell, lui, s'est fait tout simplement 2,7 millions de dollars. Pas terrible non plus, hein. Ça fait pas encore vraiment rêver. On peut pas encore s'acheter moult villas dans l'année. Bon, c'est pas top encore. Alors ensuite, Electronic Arts. Là, Electronic Arts, on commence à tutoyer un petit peu le...
On peut rien dire.
Voilà.
Oui, sauf qu'ils ont quand même posté des pertes. Mais
oui.
Ils ont viré des gens
plein
aussi.
De gens,
oui, ils ont viré des gens, oui.
Mais ils sont quand même deuxième éditeur mondial.
Ils ont racheté plein de boîtes.
Ça se passe pas si mal. Et ben John Ricciello, lui, s'est fait 5 millions de dollars. Ah, un petit peu plus déjà, mais on est tellement loin du premier, mais tellement loin.
Le recordman de toute catégorie.
Ah notre ami Bobby, hein,
Bobby Kotick.
Bobby Kotick, donc, vous ne le connaissez peut-être pas, mais il s'agit du président de Activision Blizzard.
Le mec qui a gagné au loto cette année.
C'est un peu l'idée. Alors,
au loto, à euro milliard. Il a gagné à euro milliard.
Ça va s'arrêter à million, mais en fait, lui, son salaire n'est pas énorme. Hein. Son salaire réel annuel, c'est... seulement 899 560 dollars. J'aime beaucoup le 560 hein, qui fait toute la différence.
C'était l'augmentation, il a une prime.
Donc, hors prime, voilà.
Hors prime.
C'est les primes parce qu'il a vraiment bien travaillé.
Mais alors, le truc, c'est que l'année dernière, vous êtes au courant, hein, il y a eu un petit rapprochement Activision Blizzard. Et du coup, il a eu une petite prime, genre c'est cool, t'as bien bossé, etc. Bah, du coup, ça a boosté son salaire à hauteur de 14,9 millions de dollars. Et j'ai envie de dire,
classe.
Pas mal, Bobby.
Moi, j'ai envie de dire merci rêver. World of Warcraft.
Quand même, c'est quasiment 15 millions de dollars. Ça commence à devenir assez conséquent.
Ah oui, ce prix-là, je veux bien son brushing. Hein. Ouais.
Et putain, pourtant, il est vraiment moche.
Et pourtant,
Vous irez chercher hein, sur Gameblog ou sur Google Images. Hein. Je vous redis son nom. Bobby Kotick. K-O-T-I-C-K. Voilà.
Robert.
A fun. Vous allez voir, c'est sympa. En tout cas, le jeu vidéo, ça se porte pas mal, finalement, puisque même quand on vend pas trop, on cartonne.
Ah bah oui,
on se fait des turbo-millions.
Donc ça prouve bien une fois encore, et je suis très sérieux en disant cela, que le jeu vidéo est une industrie comme les autres.
Exactement. Alors bien évidemment la seule chose, c'est que nous n'avons pas inclus les salaires de Gameblog dans ce classement, hein,
parce que là on crève les plafonds,
parce qu'il y a gens décents.
C'est ça aurait été indécent et on n'a pas envie de vous faire pleurer. Voilà, autre information pareil, ça vous a fait pas mal réagir, et il ne s'agit pas d'un poisson d'avril,
s'il vous plaît.
Il s'agit d'un site qui vient de se lancer et qui répertorie en ce mois de mars les mensonges, les plus grands mensonges du jeu vidéo. Il s'agit de videogameslies.wikia.com. Et alors, par exemple, c'est toutes ces légendes urbaines hein, dont on a entendu parler pendant des décennies, hein, qu'il était possible via un cheat code de déshabiller Lara Croft, que dans Mario 64, si vous arriviez à courir sur l'escalier sans fin, rappelez-vous, vers la fin du jeu, on pouvait trouver Luigi au bout. Alors, il y a des gens qui se galéraient pendant des heures à marcher.
C'est pas très gentil.
Non, qu'il existait un code qui permettait de débloquer le sang et les fatalités de la version arcade de Mortal Kombat 1 sur Super Nintendo. Il y en a qui cherchent toujours. Ou que dans Street 2, il y avait un combo qui permettait d'utiliser les revolvers de Guile. Je pense que c'est Candy qui avait dû lancer.
J'ai jamais entendu perso.
Non. Bah voilà.
Mais celui de Candy, c'était sur Tekken.
Ouais, qui était pas mal aussi.
Où il fallait faire un cheat code de la mort pendant qu'il y avait un flash de 2 microsecondes sur l'écran de la
quand t'avais les yeux de Kazuya qui devenaient rouges, je crois, il fallait faire au bas gauche droite.
Et un push start, etc. Et on se rappelle à l'époque, voilà.
On vous le dit, c'était une connerie.
Beaucoup de lettres qui étaient revenues avec j'y arrive pas, il y a dû avoir une coquille ou des trucs comme ça.
Merci Candy.
Voilà, ça fait plaisir. On vous redonne le site, c'est videogameslies avec un s.wikia.com. Voilà, si vous voulez vous marrer un petit peu et voir peut-être retrouver des légendes urbaines qui vous ont bien fait galérer il y a quelques années, vous allez voir, c'est assez bien foutu. Voilà, on revient, on se reconnecte avec des news un peu plus sérieuses, avec en ce mois de mars l'annonce de Max Payne 3.
Exact.
Qui
est développé chez Rockstar en l'occurrence, hein, et plus chez les gens qui font...
Remedy.
Oui, c'est ça, Remedy qui font le titre dont on ne sait rien avec des
Alan robots. Wake.
Voilà, Alan Wake.
Ouh, la vache.
On a tout donné.
Comment ça se fait par là. Ouais, donc Rockstar qui développe cette version-là. Le premier visuel est d'ailleurs très caractéristique de leurs artistes. Et bah, moi j'ai envie de dire tant mieux. Mais on n'en sait pas plus, donc c'est Rockstar, on ne saura rien. C'est ça, Rockstar, on ne saura rien avant...
Bah en tout cas, c'est intéressant.
Avant que ça sorte.
Rockstar, voilà, on ne saura rien avant un mois avant que ça sorte, en général.
Ouais, ouais. Et puis, il faudra aller faire le test à l'hôtel. Pardon.
Trois étoiles.
Pardon.
C'est un peu l'idée, mais enfin bon, en tout cas, très attendu, parce que les deux premiers étaient quand même vraiment bons.
Ah oui.
En termes narratifs, en tous les cas, ouais, c'était intéressant, le personnage était sympa.
Le gameplay était un peu répétitif.
Ouais, c'était très basique quand même.
Ça reste, voilà, tu pouvais plonger, super.
Ouais, en slow motion.
En slow motion.
Mais c'est en tout cas intéressant de voir aussi que Rockstar fait autre chose que du GTA.
Ouais,
il l'avait déjà fait par le passé, mais là, il s'attaque à une grosse licence. C'est rare chez eux de alors prendre que moi, une licence d'autres.
Alors que moi, le seul jeu que j'attends de chez eux, c'est le ping-pong, la deuxième version. Donc, ah ouais.
Non, c'est clair.
Ils ont aussi L.A. Noire, qui est un peu aux abonnés absents, ouais. Hein, mais à surveiller.
À suivre. Autre jeu qui vient d'être annoncé là, en ce mois de mars, il s'agit de Ruse, annoncé par Ubisoft. Alors de quoi s'agit-il ?
R-U-S-E, en fait, c'est un acronyme, mais bon, ça se prononce Ruse. Il s'agit d'un jeu de stratégie développé par les Français de Gen Systems et qui est très intéressant parce qu'ils ont fait un moteur, en fait... adapté à des batailles à très grande échelle, un petit peu à la manière de ce qu'on a pu voir sur Strike Commander, mais en se concentrant sur des aspects de la stratégie qui n'ont jamais été faits en jeu vidéo pour l'instant, qui sont toutes les tactiques d'information et de désinformation. Donc faire des fausses troupes,
le bluff,
etc. Voilà. Donc si vous avez pu voir le trailer, le teaser en fait, du jeu qui est sur Gameblog, c'est très inspiré par le poker, mais c'est pas un hasard évidemment, puisque... parmi la stratégie, outre le fait qu'il va falloir gérer des unités et que ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc il y a plein d'unités différentes et tout ça, il y aura tout cet aspect, réussir à obtenir les bonnes informations et réussir à désinformer l'ennemi. Voilà. Et c'est plutôt bien fait, le moteur 3D est assez impressionnant, il y a une technologie qui est vraiment sympa derrière, parce que c'est vraiment des cartes de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. C'est vraiment très 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 gros et on peut zoomer jusqu'à l'unité et jusqu'à l'extérieur sans qu'il y ait de chargement, donc avec une transition coulante jusqu'à l'aspect table où tu vois vraiment toute une région de France entière.
Ça se passe en France.
Il y aura plusieurs théâtres d'opérations. D'accord. Parce que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec toutes les factions de la Seconde Guerre mondiale.
Des plateformes sont annoncées ?
Oui, ce sera donc console et PC, donc Xbox 360, PS3 et PC. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'ailleurs par rapport à leur game design, c'est aussi que ce sera de la vraie stratégie, donc par opposition à ce qu'on pourrait plutôt qualifier comme étant de la tactique, c'est-à-dire un truc avec beaucoup de micromanagement où il faut être très précis et où il faut y avoir une souris et un clavier. Là, c'est pas le cas. Les batailles se font dans la longueur avec montage du plan, etc. Et donc, c'est parfaitement, a priori, jouable au paddle, avec trois boutons. Quoi.
D'accord. Et sortie prévue pour la fin de l'année, a priori.
Alors, ils n'ont pas annoncé de date de sortie officielle. Ça sortira en 2009, d'après ce qu'ils ont dit. Il y a forte chance pour que ça sorte plus vers la fin de l'année que bientôt. Ouais. Mais ils en reparleront à l'E3.
Ok. Mois de mars aussi, une structure qui a fait énormément parler d'elle, avec des prix cassés et des gros cartons. Il s'agit de Steam. Steam qui, pendant pas mal d'années, pendant pas mal de mois, on disait c'était vraiment pourri. Et a raison, hein, ça buguait, c'était pas très bien foutu.
C'est clair.
Bah, maintenant, juste, ça cartonne. Et en plus, ça ressuscite des vieux jeux.
Ouais. Alors en fait, ils y vont un coup de promo et derrière, il y a des éditeurs un petit peu plus malins qui, au lieu de balancer un gros patch dans la nature et d'espérer que les gens vont les installer, ils couplent ça avec une méga promo du jeu original sur Steam et du coup, bah, ça relance la mayonnaise. Epic l'a fait avec Unreal Tournament 3 qui s'était gaufré, je crois, quand aux États-Unis ils avaient fait des ventes extraordinaires, genre 7500 boîtes.
Le truc. Il s'était sorti en même temps que l'Orange Mob, en même temps à peu près.
Ouais, puis surtout, c'était de la merde. Enfin, c'était, en fait, moi j'ai fait un test très gentil parce que technologiquement ça va, ça restait du UT. Ils ont viré le mode.
Putain de PCiste.
Bah, c'est clair, mais c'est surtout qu'ils ont viré le mode de jeu qui était le plus apprécié de UT 2004. Donc les gens ont fait bah, pourquoi ? Bah tiens, je t'achète pas, je continue à jouer à l'ancien. C'est de bonne guerre. Et là, ils ont assuré parce que le patch rajoute vraiment plein de trucs et puis ils l'ont vendu super pas cher. Là, moi j'ai des potes qui sont en train de jouer à Lara Croft, j'ai vu ça avec le Tomb Raider Anniversary.
Ah bah oui, parce qu'il a été en promo là il y a quelques jours.
$5. tu fais ah ouais, d'accord.
Forcément.
Non, mais ça c'est vraiment intéressant de voir à quel point Steam est.
Ils n'arrêtent pas, ils arrêtent
là
pas.
Depuis quelques mois en train d'être devant à chaque fois. C'est des volumes de vente énormes.
C'est l'iTunes du jeu vidéo.
Ah non, mais c'est ça. Ouais.
Et ils font vraiment très très mal à des concurrents qui essayaient de s'implanter là. Je pense justement à Impulse et des trucs comme ça. Et
pas David Perrin.
Oui, je suis sûr qu'il a un projet dans un carton. et les autres vont vraiment avoir du mal à proposer des deals quoi. Quel est l'intérêt finalement
d'aller
passer chez les autres, tu vois. Attention, il y a des trucs qui peuvent être très très intéressants et on n'est plus vraiment dans le Steam-like, mais dans la vente dématérialisée. Il y a Direct2 Drive Angleterre, par exemple, qui fait des prix sur des jeux boîtes, des jeux neufs qui viennent de sortir en download, vraiment hyper intéressant, où ils y vont aussi à l'anglaise, quoi. Ils cassent les prix, en plus c'est en livre, etc. Donc c'est hyper intéressant en ce moment. Mais Steam, en termes de facilité d'utilisation, de tout l'aspect social qui est derrière, etc., ils sont en train de mettre une tannée à tout le monde, quoi. Ça, c'est très clair.
Les promos, ils en font aussi par éditeur avec des packs entiers. Où tu vas récupérer, je sais pas, 5 ou 6 jeux pour le prix d'un ou deux jeux à peine, quoi.
Bah, la semaine dernière, Ubisoft, par exemple, ils ont fait
un c'était
truc
la semaine
folie,
Ubisoft. Où ils ont... Mais alors, ça, c'était un petit peu différent parce qu'ils ont fait un jeu par jour, en fait, qui était en promo.
Avec un pack le week-end.
Voilà, avec un pack le week-end. Mais ils avaient fait avant d'autres éditeurs. Je crois qu'il y avait eu un pack THQ où il y avait plein de jeux. Bon, pas tous forcément géniaux, tu vois. Il y en a un ou deux dans le tas qui sont un peu galeux. Mais
c'est toujours un peu galeux avec la patte folle, quoi.
mais c'est toujours super intéressant, quoi. Surtout quand c'est des trucs que t'as raté et que t'as pas forcément une bécane de la mort et tout ça.
Et il y a encore des gens qui piratent. Eh ben, dis donc.
Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ouais, est-ce que c'est pas la meilleure réponse à la loi Adopi?
Ah bah sur PC, c'est pas compliqué. Moi, j'ai un public de potes, des amis que je croise régulièrement qui sont quand même des pirates patentés et ils n'ont jamais autant acheté autant de jeux que depuis qu'il y a Steam. Mais pour être très clair, c'est maintenant, voilà, ils jouent en ligne, ils s'éclatent et tout, et ils achètent les jeux et ils n'ont pas l'impression de se faire avoir.
Si tu as une offre de qualité avec des prix intéressants,
c'est exactement ça.
Steam refait des trucs hyper, hyper malins avec certains éditeurs. C'est par exemple qu'il y a des versions bêta qui sont disponibles pour certains joueurs, mais pour faire une sélection, en gros, bah, il faut acheter la version précédente pour pouvoir avoir accès à la bêta du deuxième.
Ce qui est tout bénef pour tout le monde, les mecs qui ont déjà joué et qui apprécient le premier jeu, et l'éditeur qui est certain d'avoir une base de bêta-test, de joueurs qui savent ce que c'était que le premier truc, quoi.
C'est vraiment super bien vu, et je pense que là, à terme, là, ils sont en train de faire hyper mal à la concurrence.
Ils sont malins, mais c'est fou, quoi. C'est <des coupes. rire>
Non, mais c'est intéressant, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, là, une nouvelle manière de concevoir la vente de jeux, et en tout cas, l'impression réelle, quand même, que la dématérialisation risque de un peu tout emporter sur son passage, hein, parce qu'elle permet des choses que, effectivement, en boîte, on peut pas faire avec le stock.
C'est là qu'il a été fort, Gabe Newell, quand même, parce qu'il a vu ça assez tôt, mine de rien, par rapport aux autres.
Carrément.
Ouais. Et puis, il y a un truc qu'on n'a pas non plus rappelé, mais c'est peut-être, à ma connaissance, en tous les cas, les seuls qui ont réussi à raviver et à faire revendre des jeux gamers après la sortie, longtemps après la sortie. Parce que le problème de ces jeux-là, c'est qu'en général, ils se vendent sur une semaine ou deux,
les
maxi.
Seuls, hormis Nintendo.
Voilà, c'est-à-dire que, oui, mais c'est. C'est voilà. À part Nintendo, personne n'avait réussi. Et il n'y a que eux qui ont finalement réussi à le faire. Bon, par un autre truchement, mais c'est les seuls.
Mais qui est intéressant.
Et la semaine dernière, ils ont fait vendre plein de Beyond Good and Evil.
Ouais, et
rien
c'est
pour
bien.
Ça, merci les gars. Ouais. Voilà.
Exactement, on souligne ce bel effort. Allez, on conclut ce podcast qui était dédié vraiment autour de l'actualité du mois de mars 2009 par finalement une bonne nouvelle, mais qui aurait pu être d'une glauquitude absolue néanmoins. On est passé à côté du drame.
Qu'est-ce qu'on en invente ?
Il s'agit en fait d'un amendement anti-addiction du jeu vidéo qui avait été proposé à l'Assemblée nationale et qui a été abandonné in extremis.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Et alors, je vous lis un petit peu le rapport là-dessus. En fait, voilà ce qui a été dit. L'idée nous a paru excellente, et là, on flippe un grand coup quand même, mais il paraît difficile de déterminer qui décide du caractère addictif d'un jeu vidéo. Waouh ! L'application d'une telle disposition semble extrêmement difficile. Bah écoutez, j'ai envie de dire,
et ça les a pas effrayés pour faire un autre truc,
que ça ne leur a pas effrayé pour faire la loi Hadopi. Voilà. Donc les gars, un petit peu d'homogénéité dans vos prises de décision, et puis soyez
allez voir des psychologues, en fait, des vrais, des diplômés, pas des tocards.
Ouais, et puis soyez un peu en phase avec la réalité d'aujourd'hui, à essayer de contraindre les gens et de brimer les libertés. Finalement, mais on n'arrive pas à grand chose.
Ils comprennent pas de quoi ils parlent, c'est surtout ça le problème.
Libère quoi ?
Liberté.
Ah mais non, mais au-delà de ça, c'est que
on parle
déjà,
de liberticide maintenant.
Dès qu'on parle d'internet, tu vois le niveau de leur culture réelle, il est juste catastrophique. Quoi.
Ah bah oui, de toute façon, si tu veux faire une loi où tu dois surveiller le peer-to-peer, déjà, c'est que tu sais pas ce que c'est.
Non, mais elle a expliqué que le firewall de OpenOffice, il marchait très bien, Albanel.
Ah ouais.
Voilà, on reviendra. Je crois
notre
amie
Christine.
Ouais, je crois qu'on aura vraiment l'occasion et je crois qu'il faudra vraiment le faire.
Il marche bien ton TO7, Christine.
Un bon dossier ou un podcast dédié à cette question-là, parce qu'effectivement, quand même, il y a beaucoup d'enjeux qui sont en train de se nouer là dans les semaines, dans les mois à venir, et qui pourraient brider énormément de choses. Une fois de plus, hein, on est contre le piratage, mais après, il ne faut pas faire n'importe quoi avec tout ça. Allez, on se dit, nous, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur Gameblog.fr. Ce sera le numéro 96. Voilà.
Yeah, ouais.
Et nous aurons...
C'est un 69 à l'envers, attention.
Exactement, et nous aurons un invité la semaine prochaine. On ne vous en dit pas plus, mais ça risque de vous intéresser pas mal. La thématique sera assez flippante, vous verrez.
Ça rentre aussi, Freddy.
Voilà.
Cool.
On ne vous en dit pas plus. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien et surtout, portez-vous bien. Ciao.
Ciao, ciao.
Au revoir.